I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Narita Boy. Oui, ça fait un petit bail, mais on rattrape le programme, on rattrape les choses qu'on avait laissé passer. On va parler de The Invisible End, de R-Type Final 2 et de Drawful 2, et ceci dans le désordre, parce que c'est pas du tout l'ordre d'apparition dans l'émission qui va suivre, mais c'est pas grave. Et puis, le reste du programme, vous connaissez le com des com, la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin, et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Gonin de West France. J'ai pas raté cette fois-ci, maintenant, c'est noté. Salut Corentin.
Comme d'habitude. Salut Erwan.
Comment ça va ?
Bah écoute, ça va pas mal, même si ce matin, fatigué. Mais bon, allons-y, c'est parti.
Allez, c'est parti. On va pas dire que le programme va nous transporter non plus, hein, mais
on n'a pas de... Voilà, j'aurais bien voulu être là pour Resident Evil, et du coup, on a Narita Boy à la place. Bon, c'est...
Je sais pas si on aura un jeu de l'année. Bah, on fera le point peut-être en fin d'émission. Ça pourrait être bien de faire un point final sur le contenu. On en reparlera peut-être en fin d'émission.
On en reparlera. Et vous l'avez reconnu, hein, Patrick Elio. Salut Patrick.
Salut Erwan, salut Corentin, bah ravi de vous rejoindre les amis.
Ouais, ça va la forme ?
Ah bah à fond.
On va commencer avec toi Corentin, avec l'actualité internationale qui s'invite dans la presse jeux vidéo.
Ouais, en fait, disons que ce week-end, en tout cas depuis vendredi dernier, donc là on est le 20, donc le 14 mai 2021, il y a eu en fait quelque chose d'assez étonnant dans le monde de la presse jeux vidéo états-unienne, puisque en gros plein de gros sites, alors on parle d'IGN, on parle de GameSpot, on parle de Kotaku, on parle de Game Informer, se sont mis en fait à publier des articles en faveur, ou plutôt qui appelaient à faire des dons aux associations humanitaires en fait en Palestine, par rapport évidemment au conflit qu'on connaît actuellement, la montée des tensions au Proche-Orient. Et en fait, c'est vrai que c'était assez étonnant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir la presse jeux vidéo s'engager sur de tels sujets, on va dire, aussi chaud politiquement. Enfin, vraiment, là, on parle d'un conflit où il y a techniquement possibilité de prendre position. C'est vrai qu'on avait déjà vu la presse jeux vidéo s'engager sur des sujets sociétaux, d'ordre nationaux, et qui pouvaient un petit peu déborder des frontières. Je pense par exemple à Black Lives Matter ou Stop Asian AIDS, ou même ils ont pu parler du Covid aussi, hein, ces sites-là, en appelant à donner à des associations, ce genre de choses. Mais là, on avait quelque chose peut-être d'un peu plus sensible, hein. Il marchait un peu plus sur des œufs, ces sites internet. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué, ça s'est revenu en boomerang à certains d'entre eux. Alors, l'exemple le plus flagrant, c'est IGN. Donc IGN, pour ceux qui ne savent pas, donc, c'est un des plus gros sites américains de jeux vidéo. Il y a une version française qui existe, il y a une version espagnole qui existe, j'imagine, une version italienne. Et en fait, tout ça, c'est des petites rédactions indépendantes qui achètent la licence IGN et qui l'exploitent sur place, avec des rédactions qui ont leur propre ligne éditoriale, qui parfois traduisent, hein, les articles d'IGN États-Unis. Mais en tout cas, il y a une forme d'indépendance. C'est vraiment des entreprises franchisées, quoi, un peu comme un McDo, la même chose.
Et c'est la même chose sur IGN.fr ?
Absolument, c'est la même chose sur IGN.fr. Et du coup, ben, y a un IGN Israël. Voilà, vous pouvez voir le début du problème arriver. Donc IGN Israël se réveille un beau matin et voit l'appel aux dons palestiniens, et pire entre guillemets, ou plutôt ce qui a été aussi ce qui a cristallisé un petit peu les tensions, c'est qu'il y avait un drapeau palestinien à côté du logo d'IGN.
Donc excuse-moi, juste, c'est donc sur le site américain, sur la version américaine du site.
Sur le site américain. Absolument. Et donc sur le site israélien, non, il n'y avait rien. C'était encore une fois, il y a une vraie indépendance entre les différents sites. Il peut y avoir encore une fois des traductions, mais c'est à l'initiative des différentes rédactions. Mais voilà, IGN Israël se réveille, je crois que c'était le samedi, et voit sur le site américain un drapeau palestinien flotter aux côtés du logo d'IGN. Le prend pas super bien. 2020, vu le contexte, voilà, on comprend que ce soit très, 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 très sensible, et donc publie un communiqué absolument assassin sur le fait qu'ils ne comprennent pas ce communiqué qui est complètement, on va dire, fallacieux, déroutant, enfin, tout ce que tu veux. Et aussi, nous, on soutient nos forces armées, et voilà. Bon, tu peux imaginer un petit peu le genre de communiqué qu'il peut y avoir. Ça a été publié sur Facebook et Instagram.
C'est pas si évident que ça, parce qu'il y a quand même énormément d'Israéliens, notamment dans ceux qui tournent autour des nouvelles technologies et tout ça, qui sont plutôt très très motivés pour que le conflit s'arrête. C'est pour ça que c'est pas si évident voir un site IGN Israël dire on est à côté de nos forces armées et tout ça. Enfin, ils ont le droit, hein, mais c'est...
Non, t'as raison. Après, disons que c'est pas si étonnant que ça qu'il puisse y avoir aussi des gens qui soient à fond derrière leur armée du côté d'IGN Israël. En tout cas, ça montre qu'il n'y a pas eu concertation non plus et que c'est peut-être un souci. Ça enchaîne une cascade de réactions. Donc IGN États-Unis a remplacé le drapeau israélien par une croix rouge, puis ils ont retiré l'article. Enfin, l'article a été retiré plutôt, c'est plutôt ça qu'il faudrait dire. L'article a été retiré d'IGN. On a appris par la suite, et d'ailleurs Game Informer aussi qui avait publié un article, son article aussi a été retiré. Je crois que c'est GameStop qui détient Game Informer, si je ne m'abuse, mais je ne sais plus exactement, j'ai peur de dire une bêtise, donc je ne vais pas m'avancer plus loin. Mais bref, IGN est détenu par donc deux sociétés dont j'ai oublié le nom, Ziff Davis et J2 Global. Et donc, a priori, c'est les maisons mères en fait, qui ont pris l'initiative de retirer l'article. Réaction de la rédaction, enfin plutôt silence au début, puis lettre ouverte sur Medium des 80 salariés ou 70 salariés d'IGN pour dire que c'est insupportable, qu'il y a une ingérence éditoriale qui est insupportable, d'avoir décidé de retirer cet article-là. Commentaires de Kotaku et de Vice qui écrivent des papiers dessus. Vous imaginez l'effet boule de neige que ça peut avoir.
Oui,
bref, limite un effet Streisand. On en a plus entendu parler parce qu'il y a eu un retrait de l'article plus que par l'article en lui-même. Alors que, en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est en lisant l'article de Vice, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que du point de vue des États-Unis, enfin de la rédaction états-unienne, il n'y avait pas de débat. C'était un no-brainer. C'était comme dire le Covid, c'est pas top et il faut soutenir nos soignants. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors le racisme, c'est pas bien. C'était vraiment un no-brainer. C'était genre, oui, on va aider les populations qui souffrent de la guerre, quoi. Et sans prendre forcément position.
Ouais, le truc, politique, c'est que... Oui, il n'y avait pas de positionnement politique foncièrement, même si c'est. Ouais. Tu peux pas être neutre de toute façon quand tu. Voilà. C'est pas possible.
C'est tout le souci de cette situation, c'est que ça a été pris comme une prise de position par IGN Israël, qui n'a d'ailleurs. J'en ai discuté avec le rédac chef de d'IGN France qui avait décidé de traduire d'ailleurs l'article original d'IGN États-Unis et qui a ensuite du coup été retiré également de la même façon on va dire par les cadres au-dessus hein, d'IGN et il m'expliquait que s'il trouvait le communiqué peut-être un peu maladroit dans son positionnement et notamment dans le choix de mettre un drapeau palestinien sur le site, c'était l'aspect humanitaire avant tout c'était assez légitime complexe. Comme message. Et dans la tête de la rédaction, dans l'article de Vice, on apprend que aussi il le voyait vraiment comme un no-brainer, quoi, comme on va aider des gens qui sont en détresse actuellement, quoi, et pas comme une prise de position. C'est comme ça que ça a été pris.
Je l'ai pas vu. C'était sous quelle forme? Une news, un communiqué? Ça avait quelle forme en fait sur le site en question?
C'était un article qui s'appelait vraiment comment aider les civils palestiniens. Et après, il y avait explication de la situation plus liste d'ONG qui aidaient les civils palestiniens. Mais je pense que c'est vraiment le symbole du drapeau a été le catalyseur.
Patrick, on
essaie de rebondir après ça, parce que c'est vrai que c'est difficile de rebondir sur des news plus tellement légères.
Et ben on va parler d'Amiibo parce que ça aussi, c'est...
Un nouvel amiibo de Benjamin Netanyahou qui va sortir chez...
Ben non, c'est vrai que c'était plutôt calme, hein, l'actu amiibo ces derniers temps. On se dit, tiens, c'est fini, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Nintendo a tourné la page? Et ben non, et non, les amis, on a eu l'annonce il y a quelques jours maintenant d'une nouvelle figurine qui va être associée à la prochaine réédition, vous savez, de Zelda Skyward Sword, qui est prévue, je crois, pour mi-juillet, pour cet été, hein, au cœur de l'été.
Oui, donc, le 16 juillet 2021.
Eh ben parfait, ben, c'est exactement ça. Donc, c'est réédition du jeu Wii. À polémique, hein, c'est un titre qui laisse personne de marbre, ou on l'adore ou on le déteste en général, voilà, peut-être qu'on en reparlera nous cet été ou à la rentrée. En tout cas, ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait une figurine amiibo, donc on rappelle l'amiibo, ce sont ces petites bestioles en plastique qui interagissent avec le jeu vidéo. C'était la grande vague de ces jouets connectés, entre guillemets, qui a été une grande mode et qui est retombée depuis un petit moment, avec une puce NFC, on la scanne en la collant à notre manette, et puis bah, voilà, il y a des interactions, on peut écrire ou lire des choses, des données dessus. Et puis là, donc, ça va être la figurine Zelda et le Célestrier, qui est plutôt jolie, qui va sortir et qui va débloquer, et ben, qui est assez étonnant d'ailleurs, elle débloque une capacité à sauvegarder, à créer un point de sauvegarde dans le jeu. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur un déblocage d'assets purement cosmétiques, on a vraiment quelque chose qui va avoir un impact sur le jeu, en fait, et sur la manière de sauvegarder dans le jeu, d'après ce que j'ai compris. Donc non, ça pose pas mal...
C'est pire que ça.
Ça pose pas mal de questions, sachant en plus, et je termine là-dessus, d'après ce que je vois en farfouillant sur les sites, elle est quand même entre 25-30 euros à peu près. C'est pas, voilà, on a passé le cap des 15 euros, on est sur les 25-30, et tu te dis, bah, tiens, pour vraiment profiter de mon jeu, ce qu'il va pas falloir que je passe à la caisse et pour la figurine qui commence à représenter un budget pas négligeable. Après, elle est jolie. Hein. Donc, je suis pas à l'abri de craquer, je vous le dis franchement.
C'est pire que ça. En fait, un des problèmes de Skyward Sword et qui a été tout le temps donné, c'est beaucoup d'allers-retours entre le ciel, la terre, de se balader dans les méandres.
La Wiimote, c'était ça, il y avait tous les trucs de mouvement.
Ah, mais,
et alors, tout ça,
moi, ouais. je suis plutôt un défenseur de Skyward Sword en ce qui me concerne, parce que j'adore les donjons de Skyward Sword, mais c'est vrai qu'il y avait des allers-retours un peu relous et tout ça. Et les points de sauvegarde ne servent pas qu'à sauvegarder dans Skyward Sword, ils servent à retourner dans le putain de ciel. Et donc, c'est en fait un fast travel payant.
C'est
un problème. C'est un fast travel payant pour 30 euros.
Pardon, mes souvenirs datent quand même de ça a une bonne quinzaine d'années, hein, ce jeu, si je dis pas de bêtises. Je sais plus quand se faisait la sauvegarde. C'était ça en fait. C'est que c'était plutôt limité en termes de sauvegarde. C'est quand tu prenais les airs. Je me rappelle plus très bien.
Il y avait différentes statues. Tu avais les statues qui permettaient de remonter dans le ciel. Les statues qui permettaient juste de sauvegarder. Il y en avait aussi.
Tu l'as refait il y a pas longtemps. Non, même
non,
pas.
C'est juste que je le connais très bien et que j'aime bien regarder les speedruns des gens qui le font. Les speedruns sont
voilà,
super.
Voilà.
Allez regarder les speedruns de Skyward Sword. Vous allez halluciner de ce qu'ils font.
Par contre, ce qui est bizarre, c'est de vendre une figurine donc avec des fonctionnalités de sauvegarde additionnelles, ce qui est quand même bizarre parce que
C'est comme si dans Wind Waker HD, ils avaient vendu dans un amiibo la voile rouge, enfin la super voile qui permettait d'aller plus vite. Alors que c'est simplement un moyen d'améliorer le jeu. Ce qui devrait être un minimum pour un remake. Donc, pour moi, c'est un scandale. C'est vraiment, c'est un truc qui, normalement, il devrait te donner la possibilité de remonter dans le ciel tout le temps. Si vraiment c'est confirmé et si c'est bien ce que j'ai compris, parce que c'est ce que j'ai lu sur internet, j'ai juste lu les gens qui râlaient, moi. Hein. Moi, je ne suis pas intéressé aux amiibos. Bon, les amiibos, je m'en fous. Mais si c'est vraiment ce qui est dit et ce qui est expliqué et tout ça, et qu'il n'y a aucun autre moyen de remonter dans le ciel de manière, on va dire, plus.
C'est un problème de confort.
Seamless.
De confort de jeu, en fait.
Ouais. Pour moi, c'est du ce qu'on appelle
de
dans le.
à ce niveau-là.
ce qu'on appelle vilainement en anglais du quality of life, quoi.
Et bien sûr, c'est ça.
Gravement besoin de ce genre de feature. Et donc, pour que les gens puissent.
Et envie d'y aller.
Pardonner au jeu, parce que le jeu, quand même, n'était pas le plus sympa.
Oui, je sais qu'il est vachement discuté. Enfin, il fait vraiment partie de ces titres de la saga qui sont les plus. Il y a vraiment des franges engueulades hein, dessus, sur ce qu'il a apporté ou pas. Donc, il est intéressant à étudier comme titre. Mais c'est
vrai on en reparlera donc, au mois de juillet. On verra aussi si les choses évoluent d'ici là, parce que si Nintendo regarde les réactions.
Je suis pas sûr.
Nintendo écoute de plus en plus les feedbacks et on pourrait en effet avoir des changements. C'est déjà arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc. On va voir.
Ça serait étonnant, mais on va voir
comment ça évolue d'ici le mois de juillet. Mais tu voulais aussi nous parler du troisième épisode, c'est ça?
Deux jeux, deux univers, deux salles, hein, cette tendance, deux ambiances. On a eu des nouvelles images du prochain Dark Pictures, vous savez, cette série de jeux d'horreur que moi j'aime beaucoup, film interactif des Anglais de Supermassive Games. On rappelle, ils avaient signé Man of Medan il y a déjà deux ans, je crois. On avait eu Little Hope il y a un an et quelques, hein. Et puis là, on va avoir donc le prochain qui s'appelle House of Ashes. Il y a une vidéo qui est sortie et en fait, on a une promesse, une annonce de gameplay qui sera visible le 27 mai. Alors, gameplay sur un jeu comme ça, c'est pas forcément foudroyant à voir parce que c'est un jeu d'aventure graphique. Non, ça, moi, il me fait envie, hein, on est ambiance, très franchement, on suit une bande d'explorateurs qui découvre des tombes anciennes assez inquiétantes. Ça se passe dans les montagnes irakiennes. Il y a clairement une ambiance à la Exorciste, en fait, avec quelque chose d'assez flippant. Enfin, moi, l'Exorciste, c'est un trauma, hein, vraiment. C'est un film que j'ai vu très peu de fois dans ma vie, parce que j'ai vraiment du mal à le supporter. Je trouve qu'il est... Voilà, bon, bref. Moi, il me fait envie, ce Dark Pictures. Puis bon, je trouve que... Le studio, il y a des choses qu'on peut critiquer sur les mécaniques et tout, mais il porte cette flamme du jeu d'horreur narratif que moi j'aime bien. Je trouve que on n'a jamais atteint vraiment le niveau de Until Dawn, qui reste vraiment pour moi leur fulgurance. C'était vraiment un excellent jeu que j'ai refait plusieurs fois. J'ai pas eu les mêmes accroches sur les deux premiers Dark Pictures, mais j'y crois et je trouve qu'ils expérimentent des choses. En tout cas, vraiment, je suis vraiment curieux de voir. J'irai jeter un œil à ce gameplay qui sort donc le 27 mai.
On a une date de sortie ?
Cette année. Alors, j'imagine qu'il sera là pour la rentrée. Hein, ça va être un jeu de fin d'année, j'imagine. En tout cas, on sait qu'il est sur 2021. Et moi, c'est vraiment un titre que je surveille de près parce que j'aime bien l'ambiance. J'aime bien ce qu'ils font avec, on rappelle, hein, des acteurs scannés dans le jeu avec vraiment quelque chose de quasi photoréaliste. C'est intéressant ce que font ces gens-là et moi, je vais le suivre de près. Donc, on vous tient informés. Puis, allez voir, du coup, teaser et puis donc certainement ce gameplay fin mai. On en reparlera très vite, dès que possible.
Le com des com de la semaine dernière où on parlait d'un certain Resident Evil 8. On commence avec Oufle qui dit « Quel plaisir d'entendre des fans parler de Resident Evil. Je n'ai pas encore mis la main sur le 8, mais j'ai eu le plaisir de découvrir le premier à sa sortie et depuis, je ne manque jamais un épisode canonique. C'est aussi un des rares jeux que je connaisse qui fait vieillir ses personnages. On a pu voir l'évolution de Chris et Claire Redfield, Léon Kennedy, Rebecca Chambers. C'est vraiment sympa de voir la timeline évoluer avec la fin d'Umbrella ou la création du BSAA et de voir en parallèle les personnages mûrir. »
Alors, Chris, il vieillit pas bien. Hein. Chris, il vieillit pas bien quand même.
Ouais,
oui. C'est insupportable, moi, je trouve, dans le 8. Mais bref.
Corentin, t'es là, il faut qu'on en parle un petit peu. Tu l'as fait aussi, RE Village.
Oui, mais alors Erwan est en train de faire des signes de détresse pour te dire on n'a
pas du
tout. Il faudrait qu'on fasse un spoiler free, un de ces quatre, sur la fin du jeu. Ça serait bien qu'on puisse. Bon, voilà, il faudrait qu'on fasse un.
Chris est juste insupportable dans le 8. Je tenais à le dire. Tout le scénario du 8 ne tient que parce que Chris est un sale con. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Il n'y a pas que ça quand même. Il n'y a pas que ça. Il faudra qu'on en revienne. Il faudra qu'on revienne dessus, un de ces quatre.
Et suite sans doute à la remarque de Marius en fin d'émission au yo-yo qui dit alors c'est pas de Capcom, mais pour moi, le Resident Evil avec le folklore japonais qui me vient en tête immédiatement, c'est Project Zero, dont on a parlé, hein, évidemment.
Qui était terrifiant à l'époque, vraiment.
Il est tellement démilitarisé qu'on peut objecter que ce n'est plus du tout du Resident Evil. Donc, ce n'est pas du tout un Resident Evil avec du folklore japonais. mais qu'est-ce qu'il m'a fait flipper. J'ai vu un tweet passer, hein, en réponse dans la timeline du compte Twitter de Silence On Joue qui disait que Mikami préparerait un jeu, serait sur un jeu à base du folklore japonais, justement. J'avoue que je n'ai pas du tout trouvé la source, donc je vous balance un tweet absolument
je crois que j'ai vu samedi oui. Ça peut être intéressant, ça peut être vraiment intéressant. Plein de questions, on en a déjà un peu parlé la semaine dernière sur l'ADN de Resident Evil, ce côté militariste qui revient toujours, ça fait partie aussi de ce qu'est la licence, hein. Pour moi, il y a une sorte toujours au début de on sous-entend la présence du surnaturel, on fait croire au surnaturel à un moment, les zombies, des apparitions, même dans le set, etc. Et puis finalement, on rentre dans les coulisses, que ce soit les labos d'Umbrella ou on rentre dans des mécanismes et on décortique finalement la création d'une illusion de surnaturel. C'est vraiment fondamentalement la mécanique de Resident Evil. Donc, si on retire ça, ça pose des questions sur...
c'est au Karcher. Tout dépend de la taille du chausse-pied, quoi.
Pour moi, ce qui est Pour moi, Resident Evil, en effet, il y a toujours ce moment dans Resident Evil où la réalité revient exploser tout le mystère qui peut être instauré.
Bio, on revient sur le bio, ouais, sur le ouais, côté.
Mais pour moi, ça, c'est une mécanique de série B. Et c'est normal. C'est de là d'où vient Resident Evil, finalement. Ouais, et moi, c'est ce que j'ai aimé aussi dans le 8. Ouais. Je savais bien qu'à un moment donné, on allait arriver dans un laboratoire ou une usine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est toujours pareil. Hein, c'est toujours pareil.
Ah, le côté vampire. Mais c'est marrant, tu vois, l'histoire du vampire et ce qu'on croit possible pendant un certain temps. Bah, finalement, tout. Je vais pas spoiler, mais c'est vraiment la mécanique. On fait croire à du spirituel ou du surnaturel. Et puis après, bah, y a des révélations. On rentre dans les mécaniques, dans la. Donc, vraiment ça, dans le côté industriel. Et là, la fin, on est vraiment dans de l'industriel sur la mécanique de l'horreur. C'est intéressant, vraiment. Je trouve qu'on ne peut pas vraiment l'écarter des mécanismes de Resident Evil.
Je tenais juste à dire aussi que j'étais team Julie et Patrick par rapport à la semaine dernière. Voilà, c'est tout.
D'accord. C'est fini pour le Comme des Coms. On va commencer avec les jeux vidéo. On va commencer avec un jeu qui est sorti il y a pas mal de temps, mais en version anglaise. Alors après, les traductions et tout ça, quelle importance peut prendre une version française dans ce cas présent? Eh ben, c'est l'importance, elle est primordiale. C'est un jeu de dessin, c'est pas du Pictionary, mais presque. Alors c'est très différent au niveau des règles, tu vas nous expliquer ça, Corentin. Et Patrick aussi, parce que vous y avez joué ensemble.
Petite expérience, on va en parler.
Ça s'appelle Drawful 2. Dessiner des mots et après il faut plusieurs joueurs, il faut plein de joueurs, plus il y a de joueurs plus c'est drôle. C'est à peu près ça, Corentin, j'ai tout compris ou pas?
Ouais, c'est entre 3 et 8, faut être entre 3 et 8 joueurs. L'idéal c'est à partir de 4 quand même, parce que sinon à 3 c'est pas assez pour que vraiment le jeu tire son plein potentiel. Donc oui, tu disais que c'était sorti il y a longtemps, en effet, 21 juin 2016, ça fait bail déjà, mine de rien. Ah ouais, ça fait un bail. Donc il faut savoir que Drawful à la base c'était en fait un jeu qui faisait partie d'une compilation, alors je sais plus exactement laquelle, mais des Jackbox Party Pack, qui sont en fait plein de mini-jeux de ce genre, en fait, qui sont mis dans un seul... De quoi ? 2016
non, je pensais 2016, j'aurais pu sortir sur Wii U, c'est dommage.
C'est voilà. Des jeux PC, mais à la base, donc, le Drawful 1 était dans cette espèce de jeu qui s'appelait Jackbox Party Pack et dans lequel il y avait plein d'autres jeux du même genre où on joue, en fait. Le principe de base, le point commun entre tous ces jeux, c'est que il y a un jeu qui est affiché à l'écran de télé, sur l'écran de télé, et les gens prennent leur téléphone, en fait, et c'est leur manette. Et ils vont se connecter sur un site internet, mettre le numéro de la salle qui s'affiche à l'écran, et en fait, jouent depuis leur téléphone. Donc ça permet, en fait, de rentrer des réponses, de dessiner des choses, et en fait, c'est super intelligent, en vrai. Ouais. C'est super intelligent. Et alors, pour pratiquer ça depuis au moins 6 ou 7 ans, ça marche en soirée, mais c'est toujours des succès. Hein. C'est vraiment... tout le monde vient, regarde, est curieux.
On n'a pas le côté companion app qui était la grande mode il y a quelques années. On est sur un browser, en fait, on lance, met une adresse que tu nous as envoyée, et puis ça, voilà, il n'y a pas à installer d'appli, tout ça.
Et le génie des Jackbox Games, c'est que c'est le même portail, c'est-à-dire que tu peux mettre, moi j'ai le raccourci sur mon téléphone, Jackbox Game, et après, bah, quel que soit le jeu qu'on fait de Jackbox, j'ai juste à mettre le numéro de la salle et j'arrive dans appli, entre guillemets.
Par contre, ça pose une question sur la pérennité à long terme, tu vois, le jour où le site n'est plus maintenu, tu pourras plus y jouer, voilà, c'est un détail, mais moi j'ai toujours cette petite pensée au fond de la tête sur dans 10 ans si je veux le relancer.
C'est vrai,
bon, voilà.
C'est vrai.
Tu vois, une compagnie app peut peut-être fonctionner en local, là, à mon avis, c'est pas possible.
Bon, bref. Bah après, les connaissants, je suis sûr qu'ils rendront ça open source pour que les gens puissent rebricoler derrière, mais bref. Donc, c'est les mecs, c'est Jackbox Games, ils viennent de Chicago, et pour ceux qui connaissent peut-être You Don't Know Jack, c'est eux qui avaient créé You Don't Know Jack à l'époque, qui était quiz absolument dingo. En fait, il faut comprendre la question avant de pouvoir répondre. C'est-à-dire que c'est un peu méta et de ça. C'est pas trop ma cam, c'est même pas du tout ma cam, parce que je suis toujours très frustré frustré par ces quiz-là. Je préfère les quiz un peu plus normaux. Mais en tout cas, voilà, c'est des petits malins. Voilà, c'est des petits malins qui font des jeux de petits malins. Et Drawful fait partie de ces nombreux jeux de petits malins. Et donc, en 2016 sort Drawful 2. Le but du jeu, c'est de... Donc, imagine Erwan, Patrick et moi, on va jouer à ce jeu. On va avoir chacun une fiche qui va apparaître sur notre téléphone avec quelque chose à dessiner. Alors, ça peut être quoi ? Ça peut être plein de choses. Ça peut être un hamster en short. Ça peut être je sais pas.
Un soldat et un avocat.
Un soldat et un avocat. Ça peut être Sean Connery en tricycle. Enfin, ça peut être vraiment plein de trucs à dessiner.
Ça existe ça, Sean Connery en tricycle ?
Peut-être, je ne sais pas. J'invente pour éviter de
gâcher. J'ose même pas imaginer comment tu gères un truc comme ça.
Donc, Erwan, moi et Patrick, on se retrouve avec ça sur le téléphone, mais on est bien embêtés parce que dessiner Sean Connery en tricycle, c'est quand même pas facile. Donc, non, je fais de mon mieux.
Tu peux pas écrire Sean Connery avec une flèche, un machin, c'est pas possible.
On peut pas écrire, évidemment. Enfin, c'est comme un dictionary, ça va à l'encontre de l'esprit du jeu. Donc, j'essaie de dessiner un James Bond en tricycle et essayer de faire en sorte que les gens comprennent.
Bon courage.
Voilà, bon courage. Surtout qu'on dessine au doigt si on est au téléphone. Alors, évidemment, vous pouvez jouer sur votre ordinateur aussi.
Sans dépasser.
Et voilà, tu dessines au doigt. Donc, c'est très compliqué de dessiner quand même un Sean Connery au doigt. Hein. Vous avez deux couleurs et pas de gomme. Donc, si vous vous ratez, c'est « Oh non, je me suis raté !» Et donc, tu dois rattraper ta connerie, justement, hein, sans mauvais jeu de mots. Et donc, tu dessines ton Sean Connery, comme ça. Et puis après, tu l'envoies, t'es pas content de toi. Hein. T'es clairement pas content de toi. C'est affreux ce que t'as fait.
T'es obligé de l'accompagner, ta création, de l'expliquer. Voilà. Parce que...
Tu l'envoies, tout le monde envoie aussi son propre dessin dans le serveur. Et le jeu vous félicite. Bravo, merci d'avoir envoyé vos dessins. Et là, à l'écran, apparaît un de nos dessins. Donc là, pas de chance, ça tombe sur moi. Voilà mon Sean Connery sur un tricycle qui apparaît
toi,
à l'écran.
Toi, tu sais que c'est Sean Connery, mais personne d'autre, voilà. Évidemment.
Moi, je sais que c'est Sean Connery. Et donc, on me dit, bravo, t'as dessiné ça. Bah, tu peux attendre que les autres répondent maintenant. Donc, tu attends. Donc, moi, j'attends. Et vous, Erwan et Patrick, perplexes, médusés devant cette œuvre d'art un petit peu ratée, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et vous commencez à réfléchir, à regarder... Et vous entrez, en fait, votre téléphone vous indique entrer ce que vous pensez voir, finalement. Ouais. Et donc, vous entrez, moi, je vois...
juste pour préciser, ça veut dire que dans la première phase de dessin, chacun a eu un terme
absolument
différent à écrire.
Absolument.
C'est pas chacun qui doit dessiner la même chose.
D'accord. Absolument. Et donc, moi, je sais ce que je vois, mais du coup, je peux rien faire. Et vous, vous savez pas, vous avez pas eu vous avez pas eu cette proposition-là. Et donc, vous devez voir ce que vous voyez. Donc, vous tapez ce que vous pensez voir.
Là,
Erwan,
c'est le moment
peut-être
de poésie. C'est là où il y a un peu de poésie qui peut apparaître parce qu'on interprète des choses sans comprendre.
Donc, Erwan, il va mettre un clown très poli, par exemple. Et Patrick, il va mettre, je ne sais pas...
Il va mettre un
trader déséquilibré. Voilà, tout le monde va mettre ça. Et donc, à l'écran, ensuite, va apparaître toutes les propositions. Sean Connery sur un tricycle, un trader déséquilibré et un clown très poli. Et en fait... Et alors moi, je joue toujours pas. Alors je peux voter pour les réponses les plus drôles, mais Erwan et Patrick vont devoir trouver quelle est la bonne réponse parmi toutes les réponses proposées. Donc évidemment, ils vont pas voter pour la leur puisqu'ils savent ce qu'ils ont écrit. Donc ils vont devoir déterminer si c'est Sean Connery à tricycle ou bien celle de l'autre en fait. Si jamais vous choisissez la réponse inventée, qui est la mauvaise réponse inventée par un de vos petits camarades, vous donnez des points aux petits camarades. Et si vous trouvez la bonne réponse, vous donnez des points à l'auteur du dessin et à vous-même, évidemment, puisque vous avez trouvé la bonne réponse. On répète, on rince et on répète autant de fois qu'il y a deux joueurs. Il peut y avoir un deuxième round si on n'est pas suffisant, s'il n'y a pas assez de gens par rapport au dessin. Et puis à la fin, on compte les points. Il y a même un classement des likes pour les réponses les plus rigolotes. Voilà, vous avez tout le principe de Drawful 2, sachant qu'il y a énormément de prompts, de définitions à dessiner. Oui. Et en fait, jusqu'à présent, on jouait en anglais, ou alors on jouait avec nos propres définitions qu'on peut créer, puisque le jeu propose un mode pour créer nos propres librairies, on va dire, de définitions. Mais c'était limité. Donc là, c'est cool, le jeu arrive enfin en français depuis le, je l'ai noté, 6 mai dernier, il y a une mise à jour gratuite, et ça, je tiens à le préciser, pour ceux qui avaient déjà le jeu, qui jouaient déjà en anglais. C'est du même acabit que les Scribble.io, c'est du même acabit que les Gartic Phone qui sont à la mode en ce moment. C'est une proposition différente. Pas besoin de savoir dessiner. Même souvent, ceux qui dessinent trop bien se font avoir parce que c'est trop clair et donc tout le monde met la bonne définition et donc c'est... Ouais. Ils perdent des points. Donc, être un petit peu nul au dessin, c'est pas mal. En fait,
c'est marrant, c'est marrant parce que le système de jeu, le noyau du jeu, jeu en fait est assez connu en fait, est assez moi je me souviens quand j'étais étudiant, je jouais au jeu du dictionnaire.
Oh mon dieu, tu vas faire plaisir à ma compagne qui nous dit c'est comme le jeu du dictionnaire et personne sait ce que c'est le jeu du dictionnaire. Et ben Erwan Cario,
moi je suis désolé, c'est un jeu où avec mes potes on pouvait jouer. Alors le matériel de base c'est un dictionnaire et t'as un des joueurs, on se passe le dictionnaire, quand c'est ton tour d'avoir le dictionnaire tu choisis un mot, généralement le mot le plus what the fuck possible, le plus compliqué possible. Toi tu connais la vraie définition, donc tu recopies la vraie définition et chacun invente une définition.
On sait s'amuser à la fac, hein, ça rigole pas.
Et du coup, après, on plie les petits papiers et la personne qui avait le dictionnaire lit chaque définition. Chacun vote pour la vraie. On essaye de trouver la vraie définition. Et donc, celui qui a. T'as des points si ta définition a récolté des voix, etc. Donc, c'est exactement le même principe.
Et il y a le même jeu. Il y a un jeu un peu similaire qui existe dans la collection Jackbox, qui est le Fibage. Et donc, c'est des faits divers ou des curiosités qui sont vraiment arrivées, où il manque un mot à chaque fois, il faut remplir le mot. Par exemple, si vous allez à... j'invente un truc. Hein. Si vous allez à Trentville, Tennessee, vous pourrez tomber sur le musée très bizarre du... blanc. Et là, les gens doivent inventer un mot. Et après, il y a le vrai mot plus les mots de tout le monde qui apparaît. On doit trouver le truc. Le problème, c'est que c'est en anglais, donc c'est pas accessible pour tout le monde. Là, le jeu est en français. Alors, un petit mot sur la localisation quand même. Ça peut pas être localisé complètement puisque il y a quelques références de pop culture qui sont un peu compliquées. Forcément, on est tombé sur Brendan Fraser qui est l'acteur de la momie. Donc il est connu, mais pas aussi connu que, je sais pas, un Christian Clavier en France, ce genre de choses. Donc, évidemment, ils n'ont pas remplacé tout le monde, les trucs de pop culture. Parfois, tu sens que c'est un petit peu cringe, mais dans l'ensemble, quand même, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. Et surtout, ils ont localisé la dame qui présente le jeu. Et donc, il y a vraiment un aspect, tu as vraiment le sentiment qu'ils ont vraiment fait le mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient par rapport au budget qu'ils avaient. Et donc, je salue quand même le fait que ça soit gratuit parce que pour un autre jeu, Quiplash, ils ont fait payer la traduction et je pense que... Je suis pas sûr que c'est si bien marché que ça. Parce qu'en fait, le public de ce genre de jeu, je pense, n'a pas de problème à jouer en anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, va pas forcément acheter les versions localisées.
La traduction qui est gratuite. Pas le jeu.
Enfin, la traduction est gratuite, mais après, le jeu, bon, il coûte 10 euros. Et si vous avez été, si vous étiez présent régulièrement sur Epic Games, il a été donné à un moment donné, ce jeu-là. D'accord. Sur Epic Games. Donc, peut-être même que vous l'avez sans le savoir dans votre bibliothèque. Donc, allez jeter un œil.
C'est très drôle, hein. C'est très drôle. Hein. C'est vrai que moi, je suis pas du tout dessinateur, mais en fait, c'est un détail, mais le fait de pas pouvoir effacer fait que déjà, tu as le stress d'avoir le petit compteur de temps, ou si tu n'es pas graphiste ou dessinateur, tu as peut-être ce petit stress quand même. Et puis, tu t'enfonces, c'est-à-dire que tu fais une erreur de trait, tu te retrouves à gribouiller encore plus, et tu, voilà, au final, ta création, elle ressemble à rien en général. Mais c'est amusant, et bah, comme tous les jeux apéro, hein, plus l'apéro avance, et je pense que plus le jeu gagne en... voilà, ça gagne en ampleur et en ambiance. Quoi,
et surtout, je pense que c'est important d'en faire la promotion maintenant parce que s'ils ont fait cet effort de faire cette version localisée en français gratuitement pour Drawful 2 après avoir fait le test payant, c'est-à-dire que là, si vous achetez maintenant Drawful, si des gens achètent Drawful en France parce que maintenant il est en français et vous auriez raison de le faire parce que c'est un super jeu, mais même pour vos parents, ils comprennent tout de suite de quoi il s'agit. Alors peut-être qu'il y aura une référence de pop culture qui va passer une fois de temps en temps qui va les perdre, mais ça marche. Moi, j'ai essayé sur ma mère, ça marche sur ma mère. Si ça marche sur ma mère, ça marche sur votre mère, je vous jure. Donc, essayez-le avec votre famille et tout ça. C'est vraiment fun, c'est pas graveleux, c'est très très bon enfant. C'est un peu malin, mais pas graveleux, quoi. Donc, franchement. Okay. Allez-y, cool. Allez-y les yeux fermés. Et peut-être que s'ils voient une résurgence de vente comme ça sur un jeu de 2016 parce qu'ils ont sorti une localisation française, ça va les inciter aussi à localiser leur jeu suivant parce qu'ils sortent des jeux très régulièrement Jackbox Game et ils sont souvent très drôles. Donc j'encourage tous les gens à y jeter un œil, y compris aux jeux en anglais d'ailleurs, si vous êtes à l'aise avec cette langue.
Une dizaine d'euros sur Steam et ailleurs,
ou ouais, 10 euros, c'est littéralement disponible partout.
Sur Epic,
c'est
Epic aussi.
Disponible surtout sur votre grippe, sur votre. Ouais, y a pas de problème.
Ok. Et ben formidable. En tout cas, moi, ça m'a donné envie. Je pense que je vais passer par là. C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de société. Salut, Jérémy.
Salut Erwan, depuis quelques temps je m'intéresse au travail d'un groupement professionnel de créateurs de jeux, l'Atelier, qui sont basés à Poitiers. D'ailleurs je pensais qu'ils travaillaient exclusivement avec Libellude, un éditeur basé à Poitiers lui aussi. Ils avaient développé ensemble One Key et aussi Obscurio qu'on avait chroniqué ici. Mais en fait non, ils travaillent aussi avec d'autres éditeurs dont l'américain Renegade avec lesquels ils ont sorti le jeu dont on va parler aujourd'hui. Son nom, Athenaeum Mystic Library, A-T-H-E-N-E-U-M. Et si on parlait récemment de la catégorie des oiseaux perchés sur les fils électriques, là il s'agit de celle des écoles de magie. Oui, c'est un thème vraiment à la mode, on a parlé ici de Via Magica, Dungeon Academy. D'ailleurs, l'action d'Obscurio se déroulait dans une grande bibliothèque, dans un monde à la Harry Potter. Et ben là aussi, on est dans une grande bibliothèque d'une école de magie. Par contre, cette fois-ci, le jeu est beaucoup plus gamer, il est structuré, et vous allez voir, son thème lui va comme un gant. Alors, comme d'hab, je vais vous donner un bref aperçu de la mécanique du jeu. Chaque joueur joue le rôle d'un étudiant magicien, ils n'ont qu'une seule journée pour apprendre leurs examens. Ils devront donc consulter un max de bouquins et les ranger ensuite de manière ordonnée sur les étagères. On reçoit des plateaux individuels sur lesquels sont illustrés des étagères. Il y a deux étagères de 4, une étagère de 5, une étagère de 3 par 3 et une étagère de 5 par 2 qui peut donc accueillir 10 livres. On pourra plus tard dans le jeu débloquer une extension en forme de coude pour y poser 6 livres supplémentaires. Au début du tour, on fait du drafting, on reçoit des cartes, on en choisit une et on passe le reste de sa main à son voisin. Il y a 5 couleurs de livres qui sont associées à des thèmes et donc dans la partie basse de chacune de ces cartes, il y a 2 livres qui sont représentés ou un livre et un bonus ou même parfois 2 bonus. La partie haute est divisée elle en 2 et elle représente un livre ou un bonus de chaque côté. C'est ce qu'on fera respectivement gagner à notre voisin de droite et de gauche en posant cette carte. Et donc si on hésite entre plusieurs cartes, on regardera ce qui se passe chez nos voisins pour faire en sorte de ne pas leur donner ce qu'ils attendent. Au centre de la table, il y a ce qu'on appelle une rivière de 4 cartes. C'est-à-dire qu'à chaque tour, on en dévoile une nouvelle, mais la plus ancienne sort, il y en aura toujours 4. Ces cartes, ce sont des missions éphémères qui attribueront des points à ceux qui arriveront à les remplir avant qu'elles disparaissent. Ces missions représentent des arrangements de livres et éventuellement une étagère associée. Par exemple, sur cette carte, si vous avez un livre noir, un livre vert, un livre noir et un livre blanc alignés dans cet ordre sur l'étagère d'en bas à gauche, alors il vous suffira de poser une baguette sur cette carte pour obtenir 4 points. Il y a aussi des missions qui vous demandent de poser vos livres sur 2 ou même 3 étages et elles rapportent évidemment beaucoup plus de points. Les bonus vous permettent d'obtenir plus de baguettes. En remplissant une étagère, on va y chasser l'araignée qui va vous donner aussi un bonus au choix. Enfin bon, voilà, il y a plein d'autres subtilités. On regrettera quand même le manque de cohérence de certaines illustrations et puis les couleurs qui peuvent dérouter les daltoniens, comme moi par exemple. Le jeu reste excellent, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. L'auteur c'est donc l'Atelier, l'éditeur Renegade Game Studios. De 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. Pour l'instant uniquement disponible en import, même s'il n'y a pas du tout besoin de texte sur le matériel. Enfin, si chaque livre a un nom différent, loufoque, ce qui est très rigolo, mais bon, c'est pas du tout important pour jouer au jeu lui-même. Et je viens de me rendre compte qu'il s'agit de ma chronique la plus longue de l'histoire de mes chroniques à Silence on joue. Je vais donc la conclure avant que ce soit Erwan qui le fasse lui-même.
C'est vrai, c'est sa conclusion. Attends, il s'est coupé comme ça? Vous pensez qu'il s'est coupé comme ça?
Salut Erwan, depuis quel...
Je refais parce que si...
Lui-même, et je viens de me rendre compte qu'il s'agit de ma chronique la plus longue de l'histoire de mes chroniques à Silence on joue, je vais donc la conclure avant que ce soit Erwan qui le fasse lui-même.
C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, je promets, c'est pas moi qui ai coupé sa chronique. C'est pas bien de faire des blagues comme ça. Et ouais, alors de la chronique la plus longue, elle fait 2 minutes 45, hein, ça va, hein, y a pas non plus... Il n'y a pas mort d'homme. Merci Jérémy, à la semaine prochaine. Jérémy Kletskin, donc, et sa chronique Jeux de Société. Il est sorti le 30 mars, mais nous en parlons maintenant. Il a fait parler un peu de lui, quand même, pour son design, surtout, et ses qualités graphiques, et son interprétation du pixel art très, très, très bien maîtrisé. On va voir ce qu'il en est une fois qu'on lance le jeu, c'est peut-être tout autre chose. Ça s'appelle Narita Boy. Narita Boy, donc normalement je commence en parlant un peu du contexte narratif de l'univers.
On t'écoute, Erwan.
Ouais, non, non, vous allez, voilà. C'est, j'ai dit que c'était déjà du pixel, j'en ai dit beaucoup.
Alors, vous, me mets pas là-dedans, moi, j'ai rien à voir là-dedans.
Avec personne, hein. je vais faire un tour. Non, non, on peut pas.
Alors, il y a une histoire. Je crois qu'il y a une histoire de développeur de jeux vidéo qui se retrouve à l'intérieur de son propre jeu, ou je sais pas trop si c'est lui ou quelqu'un d'autre qui se retrouve à l'intérieur d'un jeu fait par quelqu'un, et voilà.
C'est un peu en un truc à la Tron. C'est Tron le nom du film, c'est ça ? Vaguement.
Ouais, voilà.
Quelque chose, un obscur film des années 80.
C'est un mélange entre Tron et l'histoire sans fin, un petit peu, parce que c'est pas clair. Il est dans le jeu, mais il est pas dans le jeu, voilà, bon, bref.
Ouais. Un truc comme ça. Bah écoute Patrick, voilà, tu avais l'air très très motivé. Donc
ouais, j'étais motivé. Bah, évidemment. Mais bah, très franchement, j'ai craqué dès la page d'accueil. Quand on arrive sur ce menu, il y a une chanson années 80. Enfin, ce jeu, c'est un énorme cri d'amour pour les années 80. Hein. C'est le studio Koba qui est, je crois, basé à Barcelone, qui a bossé dessus. Alors très franchement, quand on a cette sensibilité 80s, c'est un régal. Il y a un côté porn 80, mais complètement, mais de A à Z, du menu à l'ambiance, le pixel art. En fait, on a une sorte de croisement entre l'imagerie du film Tron, évidemment emblématique. On a de la disquette 3 pouces partout, du néon dans tous les sens. La bande originale est assez folle. On a une sorte de... Ça capte des ambiances à la Daft Punk. Il y a du Giorgio Moroder aussi. Enfin, autant vous dire que voilà, quand on aime cette époque-là, on est aux anges. Pour moi, en termes de réalisation, il y a un vrai tour de force. Il y a un vrai tour de force à la fois visuel et au niveau sonore. On est vraiment embarqué sur... on y est, quoi. C'est complètement dingue. On en prend plein la figure. Il y a même des effets CRT à l'écran, tube un peu incurvé, avec des pixels un peu flottants. C'est un peu bombé. On y est, vraiment. On sent que ces gens-là sont amoureux de cette époque. Ils le montrent clairement à l'écran. Ça fait plaisir. Et puis, on commence à jouer. On commence à jouer, parce que c'est un peu le but aussi. Donc, on avance. On est dans une dynamique un peu d'action, plateforme. Et puis voilà. Il y a cette... Passer cette rencontre, il y a la magie de la rencontre, il y a les premiers instants comme ça d'euphorie. On se dit ouais, bon sang, c'est génial, cette musique, ça me parle, on est dedans. Et puis on avance dans la relation avec le jeu. Et puis très vite, on sent qu'il y a un peu un malentendu. On a l'impression de rejouer un jeu qu'on a déjà fait, qu'on a déjà fait 36 fois. Et puis peu à peu, je trouve que on sent cette une sorte de d'ambiance un peu à la bouillabaisse à la Player One. Vous voyez, cette assimilation un peu forcée des années 80. Ma Player One, j'ai toujours eu un petit souci avec ce côté de recracher les années 80, mais en les ayant retravaillées, puis finalement ça. Voilà, il y a une espèce de ça me fend le cœur de dire ça, vraiment. Ça
ah oui, non, mais cœur, Patrick, mais... si toi Patrick, tu sors ce genre de discours,
mais
c'est que le jeu doit être gratiné, hein.
Parce que je pense que voilà, moi j'ai un peu vécu ces années 80, donc j'ai joué aux jeux de cette époque-là avec tout ce que ça pouvait entendre parfois comme inconfortabilité, mais c'était des jeux de l'époque. Et là, c'est vrai qu'on est clairement dans un rendu qui cherche absolument, qui le fait bien à l'écran. Moi vraiment, j'ai décroché au bout de quelques temps, en fait, à cause déjà on est assommé. Voilà, ça c'est important. On arrive dans ce jeu, passer ces petites caresses, moi ça m'a vraiment caressé dans le sens du poil, c'est évident, je vous l'ai dit. L'ambiance, la musique. Mais en fait, t'es assommé. Alors, au début, j'ai cru que c'était voulu. Je me suis dit, tiens, c'est un effet de... On t'assomme de pages de texte pour te situer où tu es dans des avec des tas de termes techno. En fait, tu comprends rien. Franchement, t'es complètement assommé par le contexte. Au début, je me suis dit, bon, bah, c'est voulu. Je pense qu'il y a un effet un peu... voilà. Mais non, en fait, non. Plus t'avances dans le jeu, tu te rends compte qu'a priori, c'est pas forcément évident que ce soit vraiment voulu. Et surtout, moi, c'est dans les mécaniques de jeu. Moi, j'ai vraiment eu des soucis dans le côté, en fait, on fait pas mal d'aller-retour, hein, on débloque des portes, on est vraiment dans des canevas qu'on a vu 100 fois de jeu avec un personnage qui va faire évoluer ses pouvoirs, ses capacités, on décroche des nouvelles choses, etc. On a pas mal d'aller-retour dans les décors, et moi, très franchement, j'ai bloqué sur des passages en termes de visibilité. Alors, c'est vrai qu'il y a il y a une vraie fulgurance. Ah, ça y est, j'ai atteint mon point fulgurance, c'est fait. Il y a une vraie fulgurance visuelle, mais je trouve que ça se fait au détriment de la visibilité, de la lisibilité des écrans. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé à un moment, je sais pas, au bout de peut-être 2-3 heures de jeu, je trouvais pas comment où aller et quoi faire. Alors oui, tu as une petite option pour te redonner un résumé tes choses à faire, mais c'est illisible, tu comprends pas très bien ce qu'il faut faire, tu n'as pas de carte, c'est pas lisible, tu vois pas très bien où tu dois aller. Et je me suis retrouvé, très franchement, il manquait une porte à débloquer, je la trouvais pas dans le décor. Alors peut-être que c'est moi qui vieillis, j'en sais rien, peut-être que ces effets 80 mais alors, je trouvais pas, donc il a fallu que j'aille voir sur une vidéo où je devais entrer. Je me disais, ah ouais, d'accord, il fallait vraiment se positionner devant. En fait, il est très chargé visuellement, il y a un parti pris vraiment... y a une générosité visuellement, clairement. Il envoie, il y a plein de petits détails très sympas, des petits robots dans tous les sens. Il y a un cachet. Par contre, en lisibilité, moi, j'avais carrément manqué une porte qui était dans un morceau de décor. Et si tu ne te positionnes pas devant pile avec ton personnage, tu te dis, bah, appuie sur le stick pour entrer dans l'endroit. Je l'avais loupé et j'ai perdu un temps fou à arpenter les. C'est tout bête. Mais entre le. Tu ne t'accroches pas au lore, ça te glisse complètement dessus. Le lore, tu comprends pas ce que tu fais là, où tu vas. Il y a des fulgurances visuelles, c'est vrai que la mise en scène même. Moi, j'ai bien aimé les passages de souvenirs. Tu as des poches comme ça narratives où tu vas revisiter des souvenirs du game designer qui est un peu déifié comme ça. Tout ça marche bien en termes de musique, d'ambiance, mais bon sang, les mécaniques. Et alors, je conclue là-dessus. Tu sens que le jeu vraiment se réclame des grands classiques du genre. Moi, je pensais à Another World, je pensais Flashback, mais justement, quand on le compare à ces jeux-là, si on pense, il y a un peu les deux écoles. Hein. Another World, c'était de Eric Chahi, c'était un voyage sans mots, sans paroles, entièrement sur l'instinct, sur le ressenti, et tu vivais, c'est du cinématique platformer, tu vivais une expérience purement visuelle. Tout était raconté par l'action, les gestes. Donc là, on en est complètement à l'opposé, parce que là, on te noie d'informations, etc. Et à côté, il y avait l'école Flashback, qui était beaucoup plus écrite, avec une vraie filiation au point and click, avec des objets, des mécaniques, mais beaucoup plus, compact en termes de narration écrite. C'était beaucoup plus... on comprenait ce qu'on faisait là. On avait des enjeux, il fallait trouver un job quand on explorait la ville, etc. Là, moi, j'étais perdu par la narration, et ça me fend le cœur de le dire, parce que vraiment le jeu c'est un tour de force visuel, musical, mais bon sang, ça m'est tombé des mains.
Corentin, je pense que tu ne vas pas le sauver.
Mais je vois bien qu'il part d'un bon sentiment ce jeu-là, donc je suis toujours embêté parce que il y a des vrais efforts, quoi. Il est beau ce jeu. Je pensais pas qu'on pouvait accumuler autant d'effets visuels dégueulasses pour en faire un truc beau. Je savais pas que c'était possible. C'est incroyable. Le jeu met filtre sur filtre sur des pixels, ouais. Et c'est joli. Ah ouais, non, ils ont vraiment fait de gros efforts sur l'animation de certains sprites, sur des décors animés, tout genre. C'est quand même du travail abattu assez ouf.
Ah, c'est clair.
Le choix des couleurs, il est bon. Il y a toujours ce rappel aux trois couleurs d'ailleurs, hein, qui est dans l'épée, qui est régulièrement dans les décors.
C'est très Amstrad dans les couleurs. Ouais. Flashy. Enfin, il y a vraiment un rendu super touchant, quoi, à l'image, hein, à l'écran.
Et même dans tout ce qui est imagerie, c'est-à-dire que moi, le vrai problème que j'ai eu avec le jeu, bon, outre, tu as raison sur l'histoire, le lore est imbuvable. Je crois que c'est la première fois où vraiment je drop le lore.
Ça me saoule.
J'ai passé les trucs, je fais non, je m'en fous.
Mais c'est invitable. Mais tu peux pas, même quand tu essaies. Moi, j'ai essayé de façon très scolaire pour en parler aujourd'hui. Ouais. J'ai essayé, mais je suis pas entré dedans, j'ai pas pu.
Mais au-delà de ça, dès que tu commences le jeu et que tu es lancé comme ça dans ces jolis décors et tout ça, tu te rends compte que c'est un jeu aussi qui tend à sacraliser sa nostalgie, qui tend à la mettre en cathédrale, à rendre ça avec des symboliques très catholiques et en même temps aussi shintoïstes d'un point de vue japonais. Tout le temps, le personnage va faire le petit clap-clap et se pencher vraiment comme dans les temples, les sanctuaires shinto.
Oui, il y a un côté spirituel, oui. Qui est en filigrane pendant tout le jeu, entre techno et spirituel.
Il y a un côté techno-spirituel qui fonctionnerait super bien s'il était pris en fait au premier degré presque.
Ouais, mais sans mots, à la limite.
Oui, voilà, mais le problème,
enjoy
c'est que
un grand penseur l'a dit, enjoy the silence, c'est important.
Le jeu est ultra bavard, déjà, c'est une chose, et le jeu, surtout, n'assume pas son délire spirituel, nostalgique. Le jeu, il l'assume pas, c'est-à-dire que quand tu meurs, il fait « May you rest in force », je sais pas quoi, il y a une grosse voix de métalleux qui arrive derrière.
Mais encore, c'est plus du clin d'œil, moi j'y vois, hein, tu vois,
une punchline. Ah oui, mais ça marche pas avec l'aspect tout spirituello, machin, du jeu, qui aurait fonctionné s'il l'avait assumé jusqu'au bout. Moi, j'aurais trouvé ça super, et il y a même des retours un petit peu introspectifs avec la genèse du développeur en noir et blanc ou en sépia, où ça aurait pu s'intégrer complètement dans cet aspect un peu pieux, doux, religieux. Mec, en fait, de temps en temps, te met une blague un peu « t'as vu ces années 80 ?» Et tu fais « Ben non, fais pas ça, qu'est-ce que tu fais ?»
C'est un brouhaha, en fait. Il y a un brouhaha.
Je trouve que ce jeu, en fait, Il y a vraiment des choses que j'ai envie de lui de vraiment, mais c'est vraiment magnifique. Je comprends les gens qui sont tombés amoureux de ce jeu. Ce jeu est beau et les musiques sont belles. L'ambiance est sympa. Alors après, oui, t'as pas parlé du système de combat, par contre, qui marche pas du tout. Tu disais que t'étais perdu. T'es pas vieux, Patrick. Le jeu est mal branlé d'un point de vue éléments visuels mis en avant et compagnie. En fait, le jeu. C'est souvent les écueils des jeux riches en pixels comme ça. C'est que parfois, les éléments qui devraient se mettre un petit peu en avant et qui devraient être visibles, cet élément, tu peux interagir avec. On n'arrive pas à les distinguer parfois.
Tu vois pas.
J'ai fait des allers-retours comme toi pour trouver la porte que j'avais ratée. J'ai brute forcé un code parce que je savais pas où aller. Donc il y avait un code, il y avait le troisième symbole. Ben, je l'ai brute force parce que je savais pas où aller, ça me saoulait, donc je l'ai brute force et j'ai fini par le trouver. C'est un problème quand le jeu te force à brute force un code, c'est qu'à un moment donné t'as pas très bien réussi.
Puis en même temps, voilà. T'es pas accroché au lore, donc finalement c'est pas grave, t'avances.
Voilà,
tu dis, ben, j'avance.
T'avances, exactement. C'est un jeu qui mérite qu'on y jette un coup d'œil et honnêtement, c'est aussi une question de sensibilité. Alors c'est peut-être moins aussi ma période personnelle, mais je trouve qu'elle est esthétiquement assez jolie, donc ça ne me dérange pas plus que ça de ne pas être le premier public visé. Mais je pense que le jeu est trop faible sur beaucoup trop de points. Il ne peut pas juste tenir en fait sur ses graphismes et sur son ambiance et sur sa symbolique. Il est trop faible ailleurs et du coup, c'est compliqué de le défendre jusqu'au bout, surtout au prix où il est vendu, pour malheureusement lui accorder les faveurs d'un pouce en l'air, quoi. Malheureusement.
Et on avait eu
juste la porte à gauche de l'ascenseur, vous l'avez trouvée tout de suite ou
ouais.
Il y a que
je l'avais remarqué. Non, je l'avais remarqué, mais je comprends.
Ouais, mais c'est
ça,
voilà, il faut
c'est au début, hein. C'est au début, c'est avant d'avoir l'épée quand même.
Il y a
même,
pire. Hein. Oh là, il y a pire après. T'as vraiment, moi, la porte que j'avais loupée, elle est dans un endroit de décor que tu vois pas. En fait, tu rames quoi. C'est un brouhaha. C'est un brouhaha brillant, mais. En fait, il est étouffant ce jeu, il en met trop dans tous les sens et finalement tu te perds. Fin... Et puis, t'es pas accroché au lore, à l'ambiance. C'est dommage, hein. Un jeu, ouais. Il doit t'emmener dans une histoire, d'autant plus qu'il y a les moyens, il y avait vraiment de quoi faire, mais tu restes en surface. Il y a un côté esbrouf, moi, qui met un peu, tu vois, qui te laisse en surface, tu rentres pas dedans et c'est dommage, vraiment.
Tu parlais des portes, Erwan, et typiquement c'est là où il y a des erreurs de game design où vraiment ça aurait pu être évacué en playtest ça, mais typiquement le fait qu'on rentre pas automatiquement dans les portes quand elles sont au bout de piste,
il faut aller,
c'est un souci parce que du coup tu te retrouves à explorer des espaces
vides. C'est vrai. Qui sert à rien.
Quand tu vas à gauche de l'écran, qu'il y a une porte, et il y a encore de l'espace à gauche, toi tu vas à gauche pour vérifier carrière. Bah non, il y a jamais rien. Il y a jamais rien à gauche des portes à gauche en fait. Et du coup, t'es en mode ça c'est du temps perdu mon coco et ça me saoule en fait. Et pourquoi tu me fais pas rentrer directement dans la porte?
Ouais, t'as l'impression un décor super joli, mais dont tu vois vite les raccoins. Tu vois le script qui finalement t'accroche pas plus que ça. Il y a un côté vain, malheureusement. Enfin, de mon point de vue, c'est un peu.
Moi,
dommage,
j'avoue que j'ai été très très fasciné par la manière dont ils ont mis tous les efforts du monde pour nous désintéresser de leur histoire. C'est incroyable parce que je pense qu'à la troisième ou quatrième fenêtre de texte qui s'ouvre. Tu lâches l'affaire. C'est très vite. Dès le début, tu te dis waouh. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi?
C'est rare, hein.
C'est rare. Étrange.
Non, mais c'est rare surtout. Parce que les jeux qui ont une mauvaise histoire, à la rigueur, on fait l'histoire, on s'en fout parce que le gameplay est bon. Mais là, l'histoire arrive à rendre l'expérience pas agréable.
Ouais.
C'est rare. D'habitude, l'histoire, quand elle est mauvaise, c'est pas grave, on en rit au pire. Là, on n'en rit pas, on est énervé. C'est quand même dommage, c'est vraiment dommage.
Et avec tout ce que vous avez dit, que ce soit... En fait, le problème de Narita Boy, c'est que, mis à part ce principe de séduction initiale, hein, avec le design, avec le graphisme, et je suis d'accord avec vous, c'est plutôt joli. Enfin, en tout cas, ça fait partie, on va dire, des beaux jeux qui réutilisent les pixels. C'est très réussi. Mais tout le reste, il n'y a rien qui va. C'est-à-dire, même les mouvements du personnage, alors en tout cas, la précision dans les sauts, c'est un peu une catastrophe. Les dashs, il n'y a rien qui va sur les combats. Sont, sont désagréables.
Ah, les combats,
les
genre, et genre, tu comprends pas comment ils ont scripté les combats. Genre, on te on t'introduit un nouvel ennemi, genre, c'est un peu un mini-boss finalement. Et après ça, on te remet une salve d'ennemis normaux. Mais à quoi bon ? C'est bon, on s'en fout, c'est chiant. Ouais. On les a déjà fait. À quoi ça sert ? Le personnage, t'as raison, tu parles de la maniabilité. Le personnage est ultra flottant dans ses sauts. Alors, ils ont mis du Coyote Jump, hein, ce concept que quand tu tombes d'une plateforme, tu peux quand même encore sauter quelques frames après, ce qui fait que tu sauves la plupart de tes situations. Mais dans l'ensemble, quand même, c'est pas agréable de bouger avec le personnage. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et quand tu parles aussi de cette esthétique du beau pixel, c'est vrai que tu avais parlé de flashback, toi, Patrick. Moi, quand j'ai lancé le jeu, j'avais fait « Ah, moi, ça m'évoque Sword and Sorcery. » Parce que la gueule du personnage et tout. Et le problème, c'est que tu fais des analogies, tu dis « Ah, c'est comme Sword and Sorcery, il va pas y avoir un mot, il va pas y avoir un mot dans le jeu, ça va être tout dans les feels, ça va être tout dans un mood, ça va être tout dans un voilà dans une esthétique et compagnie. »
Une ambiance, et un le jeu te... une expérience.
Ouais. Et là, le jeu te régurgite du texte et en fait, c'est un conflit de références absolues et moi, ça m'a tué
fou,
dès le début.
Ce qui est fou, c'est qu'en fait, du coup, on se désintéresse totalement de l'histoire. On sent à certains moments, notamment dans les souvenirs, qu'ils ont une histoire à raconter.
Il y a un truc, ouais.
Il y a un truc, sauf que en fait, ils ont tellement choisi le cryptique. C'est-à-dire l'énigmatique. Moi, ça m'a rappelé. Alors, j'ai presque. Par comparaison, c'est un chef-d'œuvre. Mais Shady Part of Me, dont on avait parlé. Où il y avait pareil cette narration cryptique où on ne te disait pas exactement de quoi on va parler. On te met des petits indices et en même temps des contre-indices. Et puis en même temps, on noie ça dans une espèce de mystère comme ça qui est censé. Là, ils sont allés au bout du truc, c'est-à-dire qu'ils ont mis tellement de cryptiques, tellement de mystères que tu lâches l'affaire complètement. Et puis, les rares moments où il y a un lien avec la réalité, où tu sens qu'il y a un scénario, où tu sens qu'il y a une logique narrative derrière, tu dis, mais pourquoi vous racontez pas juste ce que vous avez envie de raconter, en fait ? Et c'est vraiment, c'est étonnant. Quand tu as dit, je pense qu'il y a un truc de playtest qui aurait dû être fait à tous les niveaux, ne serait-ce que pour mettre une map, que pour mettre... revoir les combats,
map,
revoir les sauts, revoir les... Et je pense que, en fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que qu'avec la masse de travail qu'ils ont abattu, il manquait pas grand-chose, par rapport à la masse de travail, il manquait pas grand-chose pour en faire vraiment un jeu sympa.
Bah, on retire les textes, on fait des expressions des personnages, et c'est tout.
Je jette même pas l'opprobre sur Yokoba, ça c'est du boulot que Team 17 aurait dû abattre. Team 17 qui aurait dû se retourner à leur dire « Les gars, vous voulez pas jeter un œil à ça ? Vous croyez pas que vous pouvez améliorer ça ?» Normalement, c'est le boulot d'un éditeur. Le boulot d'un éditeur, c'est pas juste de faire les PR, enfin de faire la relation presse et tout. Bah si, quand même, au bout d'un moment, ils mettent leur nom au début du jeu, c'est aussi un peu de leur taf, quoi. Normalement, c'est aussi le rôle d'un éditeur de faire un retour dans ces cas-là. Et je pense que ça aurait pu être évacué aussi à ce moment-là, mais bref.
Il est, comme tu l'as dit, vous pouvez l'essayer si ça vous tente vraiment. Notamment, il est sur le Game Pass de Microsoft. Donc voilà. Et puis
sinon en promo, moi j'ai attendez une promo quoi parce que il y a 25, je crois là, il est en plein pot 25€. Ouais.
Voilà, donc une grosse promo. Hein.
Grosse promo. Non mais pour le design, parce qu'encore une fois, il faut le redire visuellement, ça dépote grave.
Et la musique. Maintenant, il pourra même plus être gratuit sur l'Epic puisqu'il est déjà sur l'Epic. Donc
on va continuer avec le nostalgique. Hein. On va en continuer avec des références peut-être à un temps que les moins de 20 ans, tout ça. Avec un shooter et vraiment un héritier d'une grande lignée de shooters, c'est R-Type Final 2. Moi, je sais pas vous, mais les shooters où on a un petit vaisseau, où on chope des orbes qui font grossir, multiplier le nombre de piou-piou-piou-piou et le nombre de missiles et le nombre de missiles à tête chercheuse et puis le nombre de rayons laser et tout ça, jusqu'à ce que tu te fasses abattre bêtement. Je sais pas, pour moi, il y a Il y a toujours, je me retrouve toujours devant la borne d'arcade lycéen à essayer comme ça dans des 1942 ou autres, à essayer d'avoir le plus de tirs possible pour noyer l'écran et puis me faire noyer
shooter,
aussi mon regard.
Manic shooter pour certains.
Voilà, et je sais pas, j'ai toujours comme ça un appétit qui est généralement qui se termine rapidement parce que je suis particulièrement mauvais. Mais voilà, il y a ce côté, ces orbes qui font gagner des tirs, il y a quelque chose où je reste fasciné par ça, et c'est la logique des R-Type et de ce nouvel épisode R-Type Final 2. Patrick, qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors, peut-être qu'on situe R-Type avant, ou on présente un peu. Donc, R-Type Final 2, déjà, tout est dans le titre. Hein, c'était normalement R-Type Final, c'était, je crois, il y a une petite vingtaine d'années sur PS2, qui était censé être le volet ultime, final, qui devait boucler la longue histoire des jeux R-Type. Finalement, via une campagne Kickstarter, et puis voilà, et finalement, on a ce R-Type Final 2. Donc, pareil que le titre est un peu paradoxal, hein, Final 2, donc la suite du final. Donc, c'est le studio Grand Zella qui est derrière. Donc, c'est les gens qu'on connaît, je crois, pour Disaster Report. Vous savez, ces jeux d'aventure.
Au Japon, là.
De gestion au Japon, avec souvent autour de catastrophes. Voilà, on est vraiment sur un autre domaine. Donc, c'est un peu marrant. Ça, c'était un final, pas si final que ça. Alors, R-Type. Le dossier R-Type. C'est un gros dossier R-Type, hein, dans l'histoire du shoot'em up. Sorti en arcade, donc de la borne IRM, en 87. On peut vraiment dire que c'est un titre borne dans l'histoire du genre. Il y avait déjà eu des titres avant. Hein. Il y avait eu les Gradius, des titres assez références dans ce domaine, comme tu disais, Erwan, du petit vaisseau qu'on pilote et qui, peu à peu, va agripper comme ça des améliorations. R-Type, c'était vraiment une date qui marque une sorte de pointe, de pic dans ce genre vers la fin des années 80. Il a plein de bonnes idées, en fait. On ne peut pas dire qu'il transforme le genre, mais il agglomère pas mal de nouvelles choses, de bonnes idées. On pense au tir chargé, le fameux wave, où on reste appuyé sur le tir, on relâche, on a une arme puissante. On a le petit module baladeur, comme ça, qu'on va envoyer derrière toi en avant dans l'écran. Donc, il y a un jeu comme ça aussi. On s'amuse avec l'espace autour de soi dans le déroulement, vertical, traditionnel de shoot'em up. Et tout ça, ça apporte dès 87, dès ce premier jeu, un côté presque tactique aux parties. C'est-à-dire qu'on est évidemment dans du shoot'em up viscéral, mais on commence à avoir vraiment cette notion de jeu tactique. Pour moi, partie de R-Type, un peu comme aux échecs, où on dit que tu peux jouer une vie quasiment sur une partie. Ben moi, une partie d'R-Type, tu joues une vie. Tu as une vraie sensation de... Tu es à la fois dans l'action, mais tu dois aussi préméditer ce que tu vas faire, parce que plus tu connais les niveaux, tu dois te préparer. Et puis en même temps, tu dois gérer plein de paramètres. Tu gères l'environnement autour de toi, tu gères ce module que tu vas balancer plus ou moins, tu gères l'évolution de tes armes. Il y a vraiment quelque chose de très organique. Hein. Voilà, j'ai atteint mon point organique de l'émission. Mais organique aussi, c'est important dans l'environnement. R-Type, c'est aussi des ennemis, des monstres emblématiques. On se rappelle du fameux monstre qui était sur la jaquette du jeu d'origine, très inspiré par l'univers de Giger, évidemment, avec du biomécanique assez dérangeant. Et ça, c'était vraiment marquant dans l'expérience. Dans l'expérience R-Type, c'était vraiment quelque chose de fou. Et puis, pour moi, c'est une danse. À niveau d'R-Type, il y a toute cette phase de préliminaire, on pourrait dire, pendant le niveau. C'est-à-dire qu'on attrape les bonus, on flingue les ennemis pas très méchants, on déambule comme ça, on évite des niveaux plus ou moins tortueux. Et puis, on arrive sur le boss, et là, il y a vraiment une danse avec une gestion de ses armes, son emplacement, éviter la réponse du monstre qui, parfois, est en mouvement lui-même. Donc, il y a une élégance à R-Type, tu vois, dans les environnements, dans les mécaniques et même dans une partie. Je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de très intense et on le retrouve dans ce Final 2. Alors, Final 2,
qu'est-ce que ça donne?
Alors, c'est un jeu Kickstarter et pour moi, c'est marrant. Il remplit toutes les cases d'un jeu Kickstarter avec ce qu'il y a de bien et de moins bien. C'est vraiment sans faire cliché, parce que c'est très bien Kickstarter, ça a permis de faire revenir des jeux. Là, c'est un exemple, hein, d'un jeu qui revient, parce que Kickstarter, c'est aussi une façon... Vous savez, quand on fait une campagne, évidemment, ça rapporte des sous, c'est important, mais c'est aussi un moyen de voir s'il y a de l'attente. C'est-à-dire que si le Kickstarter fonctionne, ça permet de voir que les gens sont là, ont envie de rejoindre un jeu. Et en même temps, on tombe souvent dans quelque chose, dans la production de jeux vidéo, dans des jeux pour les fans. C'est-à-dire qu'on amène ce que les joueurs attendent. Et là, on est clairement là-dessus. On est sur quelque chose qui est très proche des fondamentaux de R-Type. J'ai envie de dire, si tu es fan de R-Type, tu es vraiment dans ton jus, tu es vraiment sur quelque chose de, qui remplit toutes les cases de ce que doit être R-Type. En termes de réalisation, je trouve qu'on est sur quelque chose de plutôt élégant. Alors moi, pour tout vous dire, j'y joue via Epic, donc sur mon PC. J'ai un PC qui n'est pas dans une forme olympique, un peu vieillissant. Donc, j'ai eu des ralentissements, mais je ne suis pas sûr. Je pense que ça peut être lié aussi à mon hardware, parce qu'on a quand même quelque chose d'assez musclé. On est sur une réalisation 3D avec des effets de lumière assez jolis. En fait, j'étais très franchement en jouant, comme je vous dis, on est vraiment sur une vraie expérience R-Type pur jus. À la fois, j'entendais mon moi de 1990 qui était halluciné, abasourdi de voir une réalisation 3D avec des effets de lumière, me dire mon moi de 90 me disait c'est génial, ils ont réussi à faire ça en 2021. Tu joues un R-Type qui est super beau avec des effets dans tous les sens, et en même temps, il y avait mon moi d'aujourd'hui qui tiquait un peu, qui me disait c'est un R-Type.
So what?
Est-ce qu'il est encore dans le coup? Est-ce qu'il a encore une proposition? Alors, il y a des choses sympas. Il y a un mode musée, ça qu'on débloque, évidemment. En fait, il est plein. Il y a plein de contenu. Il y a plein. On sent que vraiment, ils ont mis le paquet sur le nombre de vaisseaux à débloquer, des personnalisations. Il y a même un truc un peu bizarre, un peu de théâtralisation du début des niveaux avec des cinématiques. On se voit en vue subjective, on voit son vaisseau. Ça, j'aime bien. Je trouve ça plutôt intéressant de se dire les mecs, sont en 2021, se font plaisir. On peut choisir de faire un signe au mec qui nous dit de décoller. C'est drôle. Il y a presque un parti pris presque cinématographique. On sent que voilà, il y a une volonté d'amener du nouveau, mais ça reste en surface. Et finalement, on est sur un R-Type qui évolue. Hein. R-Type, quand tu lances, même en mode normal, tu en prends plein la figure. C'est un jeu exigeant. C'était ça aussi l'ADN de R-Type. Après, moi, j'ai noté un flottement. Alors, j'ai du mal à savoir si c'est ma configuration qui fait que mon PC a peut-être du mal. J'ai senti un flottement dans les déplacements, et c'est un problème sur un jeu qui est au pixel près, qui est très, très exigeant. J'ai senti, je ne sais pas si vous avez vu la même chose de votre côté, il y a un côté un peu lourd, un peu même sur les déplacements, sur peut-être l'effet 3D aussi qui joue là-dessus.
Corentin ?
Alors moi, R-Type, j'ai aucune expérience avec R-Type, donc c'était compliqué de faire des comparaisons comme toi, Patrick, mais surtout que je viens plutôt de l'école Cave, moi, des Danmaku japonais avec plein de balles à l'écran, ouais, et surtout un vaisseau qui a une hitbox minuscule. C'est-à-dire que dans ces jeux-là japonais, dans les shoot'em up japonais, c'est vrai que ton personnage peut vraiment se glisser entre deux boulettes, c'est incroyable, quoi. Dans R-Type, non. Je l'ai appris à mes dépens, là, putain.
Oui. Une balle, t'es mort. Un impact,
ouais,
c'est
ouais, ouais.
Et ça, non, c'est important, parce ouais, que c'est vrai que c'est...
Comme dans la plupart des shoots, hein, cela dit. Mais c'est vrai que là, moi, je ne suis pas habitué à ce que si le bout de ton vaisseau effleure une balle, bah, tu meurs, en fait. Ça, je ne suis pas habitué du tout. Et donc, la transition était un peu compliquée, mais... C'est venu assez vite et j'ai compris un petit peu l'esprit de R-Type, qui est en fait moins dans les patterns compliqués, mais plus dans la gestion de tes placements, en fait, et de comment tu vas te placer, comment tu vas pouvoir tirer. Parce que, en fait, disons que je suis d'accord avec toi, Patrick, mais je pense que ce R-Type a sûrement rien de très original, finalement, et c'est sûrement dommage, surtout au prix où il est vendu. Mais pour un mec comme moi qui n'ai jamais joué à R-Type et qui découvre en fait un petit peu le concept de R-Type et les subtilités du game design de R-Type, en fait, ce game design, il tient bien, je trouve, en 2021. Je le trouve assez... En fait, ce jeu était d'une modernité, mais hallucinante à l'époque. L'idée d'avoir ces modules-là que tu te colles à l'arrière, à l'avant, machin, mais c'est incroyable.
C'est
il n'y aurait pas eu de R-Type à l'époque. Un jeu indé aurait créé le truc d'R-Type aujourd'hui. On aurait fait, mais quel génie, c'est super, c'est très bien trouvé.
Tu sais que R-Type, le premier, était un benchmark sur les adaptations micro, console. Tu avais vraiment une école de comparaison des versions, tellement le jeu était gourmand. Enfin, c'était vraiment une démo en arcade.
Ouais.
Et on pourrait écrire un bouquin entier sur les adaptations de R-Type en micro, en console, parce que benchmark technique, c'était complètement dingue.
Alors après, moi, j'ai lancé le jeu, je me suis mis en difficulté bambin, parce que je ne suis pas non plus, je pense pas être un... Je pense pas, parce qu'il y a vraiment... Alors, oui, le mode facile, c'est le mode bambin. Enfin, il y a un mode encore plus facile, mais bref. Le mode bambin, en fait, vous donne plein de crédits. Donc, c'est cool de leur part. Je crois pas que ça change la difficulté des niveaux, mais en tout cas, ça vous donne plein de crédits, ce qui est sympa, du coup, pour aller le plus loin possible et un peu regarder les différents environnements, les différents niveaux et tout ça.
Ouais, t'as des save points qui s'enclenchent sur les niveaux.
Ah, plus facilement aussi, ouais. Bah, tant mieux, alors. Le jeu n'est pas si beau que ça. On va dire les choses. Le jeu n'est pas très très beau. Il n'est pas techniquement à la ramasse. C'est juste que les choix graphiques sont vraiment bizarres, quoi. Pour moi, il a le même problème que les Star Fox moches qui commencent à partir de la GameCube avec des triangles, des trucs comme ça où c'est pas très beau. Tu fais ouais, ok, vous maîtrisez les shaders et tout, mais est-ce que vous maîtrisez le bon goût un peu? Bah non, pas toujours en fait. Et du coup, il y a vraiment des passages où tu fais ouais, voilà, c'est pas beau, quoi. C'est vraiment pas très joli. Puis en plus, c'est déjà du déjà vu. Alors, je connais pas les R-Type de base, mais peut-être c'est des références aux anciens R-Type, mais c'est vrai Oh tiens, donc on a le premier niveau où on attaque le vaisseau, puis après il y a le niveau plante, et puis après il y a le niveau tout robotisé, et puis après il y a l'armada spatiale. Enfin vraiment, c'est vraiment des trucs qu'on a déjà beaucoup vu. Et c'est vrai que pour moi qui ai fait aussi d'autres shoot 'em up qui ont eu des settings un petit peu plus, enfin des settings pardon, des théâtres d'action un petit peu plus originaux comme les Mushi Mesama où on joue des petits insectes, ou alors des Jamestown du côté des jeux indés où on joue carrément des conquistadors de l'espace. Enfin je veux dire, on peut peut-être trouver on peut peut-être s'amuser un peu avec R-Type. Et là, c'est vrai que l'aspect un petit peu classique, genre pilote, vous allez défendre la Terre contre les aliens, bien qu'il y ait des fins avec des subtilités de scénario où, oh là là, peut-être que le virus, c'est nous, pour le dire rapidement, peuvent apporter un peu de dimension là-dedans. Bon, j'étais pas subjugué par tout ce qu'il y avait autour, et surtout, je comprends pas pourquoi ils ont mis autant d'efforts pour la customisation de ton personnage que tu vois jamais.
Ça sert à rien.
Ça sert strictement à rien. Tu peux débloquer des tenues, des emotes pour ton pilote.
Tu dois le voir quand tu fais ton pouce là, quand on refuse subjectif.
Ouais, tu peux lui donner un genre et un nom. Mais à quoi bon
Je sais que mon moi de 1990 a failli s'évanouir, tu sais, dans le muséum où tu peux voir les vaisseaux que tu as débloqués à taille humaine. C'est-à-dire que tu les regardes, tu as une sorte de fascination. Tu sens que c'est un jeu presque introspective sur le mythe R-Type. Il y a une mise en scène de ce qu'est R-Type. Après, je suis d'accord, moi j'ai tout fait. Hein. J'ai mal aux yeux entre Narita Boy et celui-là. Visuellement, mon écran, tu vois, les couleurs. C'est vrai que t'as des orgies de couleurs. Ouais. C'est pas toujours très bon goût, tu es d'accord?
Non, et puis,
surtout quand tu te rappelles, je parlais de l'élégance à la Giger des originaux où t'avais vraiment quelque chose. Mais c'était aussi à une époque donnée. Ça pose la question aussi de R-Type aujourd'hui. Est-ce qu'il fallait le transposer en 3D comme ça? Est-ce que...
Et surtout, ce jeu a un problème de lisibilité. Il y a un énorme problème de lisibilité. C'est-à-dire que dans les shoot 'em up, l'important, c'est que tu vois les boulettes. Et des fois, vraiment, tu peux te prendre une boulette sans t'en rendre compte parce qu'elle était peu visible. Et ça, c'est un vrai problème dans R-Type. Et surtout, quand tu viens du Danmaku comme moi, où les boulettes sont violettes fluo, là, dans R-Type, des fois, elles sont de la même couleur que le fond.
T'as les spores des plantes, l'espèce de spores petites, très fines, et tu pètes, t'exploses. Alors que bon, c'est vraiment...
Et ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça amène à des grands moments de frustration.
Mais tu as découvert le côté jouissif de jouer avec ce module que tu balances en avant, en arrière, comme une balle. Tu as un effet presque ping-pong avec à l'écran.
Comme je l'ai dit,
la mécanique est géniale.
Comme je l'ai dit, cette mécanique qui nous vient des anciens R-Type est moderne as fuck. Et à l'époque, c'était des génies, honnêtement. Je suis sur le cul face à la modernité de cette mécanique qui est génialissime. Mais voilà, il y a aussi des choses sur lesquelles on a évolué depuis qui auraient pu être intégrées mieux. Je pense que l'école japonaise moderne du shoot'em up et Danmaku aurait pu être un peu plus intégrée dans celui-là, en réduisant peut-être un peu la hitbox, en mettant plus d'effets visuels pour indiquer les éléments de jeu par rapport au décor et tout ça. Bon, c'est dommage, mais après, c'est pas un mauvais jeu. Je sais pas pourquoi ils ont mis autant d'efforts sur la customisation alors qu'ils auraient pu en mettre aussi sur les tutos où on t'apprend rien dans le jeu. Moi j'ai découvert après coup qu'il y avait un tir chargé, j'ai appris après coup qu'on pouvait changer de vitesse de son vaisseau. Moins de personnalisation à la con, plus de tutos, ça aurait été pas plus mal, surtout vu le prix du jeu qui est kickstarté. Bon, fatigant un peu, mais bon.
Il est à combien déjà?
40 euros.
Avec 40 euros, c'est un peu cher. Moi, j'ai joué. J'avoue que j'ai rien rajouté par rapport à ce que vous avez dit parce que vous avez vraiment tout dit. Sauf que, enfin, le seul truc pour moi, c'est quand j'ai parlé de ce plaisir du vaisseau, des tirs qui évoluent, de ce module aussi qui est assez génial à mettre devant, derrière et tout. J'ai regretté que, et tu l'as dit Patrick, hein, c'est le côté Kickstarter, on fait plaisir aux fans et on fait que ça en fait. Je me suis dit, c'est dommage de ne pas prendre comme le noyau du fun que ça procure pour le faire évoluer, pour le moderniser, tout en gardant finalement la substantifique moelle de la licence, mais en modernisant l'ensemble pour en développer, en décuper le plaisir de jeu. Et je trouve qu'il y a des choses à faire. Ça donne envie...
Il manque peut-être une key feature, un truc genre Megaman 11 avait plutôt réussi ça avec son système de double mode, tout ça. Alors c'était pas le bon Megaman 11, on pense qu'on veut, mais il était quand même assez fun, moi j'ai trouvé. Ce R-Type manque d'une key feature, manque de quelque chose qui te dise oui c'est le R-Type avec cette fonctionnalité. Et en fait il y en a pas, il y a pas ce petit truc qui fait que il va être un peu plus spécial que les autres. Et du coup, alors peut-être qu'il y en a une, mais je l'ai pas vue. En tout cas, elle est pas assez mise en avant. Hein, mais voilà, c'est dommage.
R-Type Final 2 qui est à peu près sur Switch et ailleurs et sur
c'est Epic, Switch, sur... PS4, Xbox One, Xbox Series, voilà. Ça coûte 40€.
Ouais, ce qui est cher quand même. Pareil, hein, pareil cher, que Narita quoi. Boy, attendez les promos. voilà. Mais par contre, why not hein, pour
Jamestown a eu un DLC, enfin une nouvelle version vachement cool et il coûte moins cher. Je crois.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allez, on va terminer en se vautrant dans le capitalisme le plus outrancier. Oui, c'est vous écoutez bien Silence on joue et on a peur de rien. Et on va donc acheter, revendre et vendre avant d'acheter et tout ce genre de petites choses que propose la finance avec The Invisible Hand. The Invisible Hand, donc on va acheter et vendre, se faire du pognon, monter en grade dans une agence et acheter des maisons et des appartements pour se faire encore plus de pognon. C'est ça, non, Corentin?
Ouais, avec un
scénario quand même.
Ouais, bon, le scénario... le scénario est léger, on va dire. Mais bon, The Invisible Hand, c'est fait par des Français, figure-toi. J'ai découvert ça en cherchant le jeu ce matin. C'est édité par The Fellow Traveler, que j'avais déjà repéré pour trois jeux, en fait. Pour deux jeux, plutôt. Paradise Killer et Genesis Noir. Donc, je les aime bien, Fellow Traveler. Continuez ce que vous faites, parce que je trouve que vous avez des partis pris assez intéressants et je vais vraiment suivre systématiquement ce que vous proposez parce que c'est vraiment chouette. Bref, donc c'est fait par Power Struggle Games qui sont des Français, mais le jeu n'est pas en français. Je ne sais pas pourquoi, c'est dommage. Donc,
ce qui est dommage, parce que c'est violent quand même.
Voilà,
un petit peu.
Préviens d'avance, ça va vous demander quelques connaissances économiques, de l'anglais. Donc c'est pour ça que je préfère prévenir d'avance parce qu'on peut être perdu même quand on pense maîtriser. Donc on joue le rôle d'un mec qui est dans la finance très clairement, qui habite Wall Street, qui est à New York et qui va intégrer une grande compagnie de trading, comme vous les imaginez. C'est le loup de Wall Street, c'est l'imaginaire loup de Wall Street, c'est exactement ça. Ils ont les dents qui rayent le parquet, ils veulent gagner de l'argent et c'est tout, quel que soit le prix, quelles que soient les conséquences économiques. De toute façon, ce jeu, très clairement, va se vautre dans la parodie, est en fait est une critique de tout ce système-là. Évidemment que ce n'est pas un jeu qui promeut ces pratiques-là. Le but, c'est de pousser le vice. C'est un raisonnement par l'absurde du système financier international. Et donc, on va vous mettre des personnages plus abrutis les uns que les autres, plus, on va dire, ils veulent tous gagner de l'argent, quels que soient les moyens. Vous arrivez, donc vous avez une espèce de mentor qui vous accueille, qui vous met au parfum de ce qu'il faut faire. Et dès le départ, on vous fait signer des accords pour dire oui, je suis gentil. Et si jamais l'autorité de la concurrence me dit qu'il faut que je leur donne les documents, je leur donne les documents. Donc, et genre, on vous dit, dites oui à tout, parce que de toute façon...
Les bonnes réponses sont précochées.
Voilà.
Tu as 10 questions et à chaque fois, c'est un questionnaire d'éthique et les réponses éthiques sont précochées. En fait, tu fais juste suivant. C'est assez drôle.
C'est très drôle parce qu'en fait, on dit bon, là, il faut faire ça pour être bien vu par l'autorité de la concurrence. Mais en vrai, on s'en bat les couilles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire de la thune, quoi. Donc voilà, tu passes ton test et on te dit bon, vous êtes deux, mais il n'y en a qu'un seul qui va rester au bout de la semaine de travail. En gros, enfin, dès que le premier qui atteint ses objectifs, l'autre devra dire gentiment au revoir, quoi. Et alors, quand on dit au revoir, si on dit au revoir, hein, votre nom est affiché sur tous les écrans de la firme avec écrit une cause de départ stupide du style était trop beau pour ce monde, enfin bref, des trucs comme ça. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a de pire dans le monde de l'entreprise lié avec tout. Vraiment, c'est un monde de requins. Vraiment, c'est le Shark Tank.
Est-ce qu'il y a Michael Douglas avec des, tu sais, en.
Non, il n'y est pas, malheureusement.
Non, d'ailleurs,
point sensible, les modèles des personnages sont tout simplement affreux. On ne va pas en parler, du
c'est
coup, ils sont
laid,
vraiment...
Mais c'est très, laid. Très laid. Toute la partie 3D du jeu est immonde.
C'est très laid. Peut-être qu'ils auraient dû se cantonner à de la 2D ou ne pas montrer les personnages.
Cette semaine, hein, visiblement.
Ouais. c'est pas beau. Mais bon, c'est pas grave aussi. C'est pas grave. Ça donne presque un charme un peu désuet au jeu,
oui,
finalement. Mais bref. Rien n'a d'importance, même pas les modèles 3D. On en est là, quoi. et du coup, on arrive devant notre ordinateur. On va nous donner 4 écrans. 2 écrans pour surveiller des cours, vraiment. Un écran pour acheter, vendre. Et un écran pour surveiller ses actifs. Et aussi surveiller le GuysNet. Qu'est-ce que c'est que le GuysNet, mon cher Erwan? C'est le réseau des traders de l'ombre qui connaissent tout avant que ça arrive. Quelqu'un m'a dit qu'il allait y avoir un choc pétrolier dans tel pays. Vite, il faut acheter des actions dans cette compagnie parce que j'ai le tuyau. Et puis des fois, le GuysNet, il n'est pas disponible. Du coup, il faut acheter à la presse, ces salauds de journalistes, les bons tuyaux parce qu'ils vont savoir que on a trouvé un moyen de mieux faire des ordinateurs avec moins de plastique. Ça va bien booster certaines actions dans la technologie, ça. Alors du coup, tu dois récupérer tes informations. Il y a aussi un réseau social des traders, mais il faut regarder un petit peu s'il a des likes ou pas pour savoir s'il faut acheter et vendre. Et on se retrouve face à une liste d'actifs face auxquels il va falloir acheter au bon moment, revendre au bon moment, voire même au bout d'un moment, on va demander de shorter des actions. Alors qu'est-ce que ça veut dire shorter? Je vous renvoie à notre épisode où on a parlé de l'affaire GameStop. Voilà, ouais. Où en gros, vous empruntez des actions sur le marché pour ensuite les racheter plus tard à un prix plus bas pour vous faire de l'argent. Et puis, au bout d'un moment, on va aussi vous donner à disposition des lobbyistes qui vont pouvoir faire monter artificiellement des actions, les baisser. Et alors, ils sont redoutables, les lobbyistes. Hein. Vraiment, moi, j'en mettais plein d'un coup sur une action, mais elle s'écroulait. C'était incroyable. J'avais vraiment l'impression d'être le maître du monde. Et puis, je provoquais des guerres civiles. Il n'y a pas de problème, mais ça faisait monter le prix des armes, ma bonne dame. Il faut bien manger. Je veux dire, il va pas se payer tout seul le manoir que j'ai acheté l'autre jour. En plus, j'ai des loyers, j'ai des locataires dedans. Enfin, que je les vire parce qu'il va falloir que je fasse une petite fête pour graisser la pâte à mes collègues, pour qu'ils me donnent des tuyaux, tout ça. Voilà, vous pouvez imaginer toutes les mécaniques affreuses de ce jeu qui est assez complexe quand même. On est vraiment submergé par des interfaces très riches en nombre, en possibilités. On peut vite faire des bêtises. Le jeu vous permet quand même de ralentir le temps, d'accélérer le temps, grâce à un système de thé et de café un peu rigolo. Plus vous prenez un thé fort, moins le temps va vite. Plus vous prenez du café fort, plus le temps va vite. Et évidemment,
C'est quoi son message au final?
En fait,
il se
toi,
moque
ton but
de tout ça ou...
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que vraiment,
il pousse le curseur au maximum, quoi.
Voilà, il pousse le curseur au maximum. Donc le message, il est assez rigolo. On s'amuse. Les dialogues sont pas trop mal écrits. C'est très caricatural. Mais du coup, on peut pas s'empêcher de rigoler un peu. Enfin. Je suis désolé, on ne peut pas s'empêcher de rire un peu en provoquant des famines dans certains pays juste parce que il y a un collègue qui va te féliciter parce que tu as fait le coup du siècle. Il y a un côté tellement... Comment dire, on n'est tellement plus les pieds sur terre finalement que le but du jeu, il marche bien. Enfin, la démarche
en fait,
du jeu marche bien. Ouais.
C'est du roleplay.
Sachant que, en fait, ça a l'air horrible et tout ça, il y a un côté assez réaliste. Il y a un côté tristement réaliste en fait à ce qui est proposé. Et par ailleurs... Moi, j'ai essayé, j'ai joué, j'ai fait quelques jours de jeu dessus, et c'est là où il y a un sentiment presque de malaise, c'est que tu te sens que le capitalisme est très ludique. de fait. Oui. C'est horrible à dire, mais de spéculer à la hausse, à la baisse. Voilà. Et que finalement, le jeu vidéo, tout le grind, l'aspect grind du jeu vidéo, être hypnotisé un peu à aspiré par des chiffres qui montent et gagner des trucs et faire du bénéf en investissant et tout ça pour faire des sortes de belles opérations et finalement c'est un, le capitalisme c'est ludique, deux, le jeu vidéo est très capitaliste d'une manière générale, en fait tu te rends compte de ces deux éléments là, là on est dans une parodie, dans un cynisme absolu par rapport au rapport avec la réalité, mais aussi ça dit beaucoup de choses et du jeu vidéo et du capitalisme par ailleurs. Ouais. Mais
disons qu'il n'y a aucun doute sur ce que pensent les développeurs de tout ce qu'ils ont voulu montrer.
Aucun.
C'est plutôt un jeu, alors, en ce qui me concerne, qui est en accord avec ce que je pense de tout ce système là. Après, ça, j'imagine que ça peut en choquer certains, et je pourrais comprendre tout à fait. Faut pas oublier que, comme dans toute bonne parodie et c'est vraiment une parodie quoi. C'est, il faut aussi aller dans ces zones-là un petit peu extrêmes pour montrer certaines choses. Et je pense honnêtement qu'on n'est pas si loin de la réalité. On a l'impression que c'est une parodie, mais en vrai, il y a certains trucs tu fais, Enfin genre, typiquement, en fait, si vous utilisez trop les lobbyistes. Vous avez un coléromètre du peuple en fait qui se rend compte que vous manipulez le marché et en fait si jamais vous touchez le rouge c'est pas grave en fait il y a votre collègue qui arrive et fait bon on a appelé les services relations presse relations publiques bon ils t'ont sauvé les miches hein, mais attention et tout et ton truc revient dans le vert parce qu'en fait il suffit d'une bonne campagne de pub ou quoi ou une bonne campagne de com pour régler le problème
En tout cas, la question de la moralité, la moralité, vous l'avez bien vécu, enfin une fois dans le jeu, quoi. Vous déconnectez des.
Non, mais parce que tu joues, c'est explicite. La moralité du truc est explicite, donc tu rentres. En fait, tu rentres dans une narration. En fait, tu rentres dans un scénario et dans un truc comme ça. C'est pour ça que
c'est pas du tout. C'est pas du tout subtil. En fait, on t'envoie à la tronche. Et voilà, on est parti sur une parodie. Il y a pas de problème.
C'est un monde de merde.
Joue avec nous ce soir, c'est rigolo.
The Invisible Hand qui est sur PC qui est un côté do it yourself le capitalisme avec ce modèle 3D d'une laideur absolue mais qui finalement est drôle
ça va avec le tout, c'est un peu des hommes légaux,
il y a un ridicule structurel comme ça qui est pas mal
et surtout ça coûte que 11 euros. 11 euros l'expérience avec un message, c'est sympa.
C'est terminé pour cette semaine avec les jeux vidéo et merci à tous les deux. Alors après il n'y a pas forcément il y a Drawful,
oui, le bilan.
Il y a eu des émissions où on a donné peut-être plus envie que celle-ci, on va pas se mentir. Mais voilà.
C'était l'émission mal aux yeux quand même. Il y avait, je pense, le fil rouge, c'était vraiment l'attaque.
C'est pas faux. C'est un joli fil rouge jusqu'au bout. Et puis maintenant, c'est l'heure de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick ?
Eh bien, moi, je reste quand même dans l'univers du jeu vidéo. Ah, ça me quitte jamais complètement. Donc, j'ai vu le dernier film Mortal Kombat qui était très attendu. J'avais déjà dû en parler ici. Je l'attendais de pied ferme parce qu'il y avait une promesse de gore, en fait. Il y avait vraiment une promesse de... Il y avait eu un... Je crois que les premières minutes avaient été diffusées en avant-première. Donc, il y avait cette promesse par rapport au film de 95 avec Christophe Lambert de Paul Anderson qui était... Il n'y avait pas de sang. Enfin, c'était Mortal Kombat, mais très, très gentillet. Et bon, bref, il y avait une envie d'un Mortal Kombat gore, donc en raccord avec les jeux, quoi, qui sont quand même des jeux à base de finishing et de trucs complètement abominables. Alors, vous l'avez vu, et j'ai déjà oublié en fait, c'est terrible. C'est terrible en fait. Donc, le film réalisé par Simon McCoy, que je ne connais pas je crois pas qu'il ait fait grand chose d'autre. Alors, le problème, il y a plein de problèmes en fait. C'est malheureusement, j'y ai cru, je voulais y croire et. Il y a plein de problèmes. Je ne vais pas spoiler. Hein. Voyez-le si vous avez envie. Moi, ce qui m'a tué, c'est l'absence de mon personnage principal de Mortal Kombat. Je ne vais pas le citer. Je vais pas.
Christophe Lambert.
Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Non, mais vraiment, moi, j'ai un personnage de cœur qui me suit depuis les débuts, depuis le premier jeu de 92-93. Il n'est pas dedans. Donc voilà, c'est un choix. Et à côté de ça, on essaie de nous coller un nouveau héros. Cole Young, un perso qui n'a pas de charisme. C'est-à-dire que le film essaie de créer un nouveau combattant Mortal Kombat. On rappelle hein, ce tournoi qui est organisé pour éviter que des forces des ténèbres envahissent la Terre. Enfin bref, en fait, le film essaie de nous créer un nouveau personnage et ça ne fonctionne pas du tout. Alors oui, il y a du gore, mais en fait, moi, je me suis retrouvé... J'appelle ça l'effet maître de l'univers. Moi, je me rappelle en 87, quand j'ai découvert le film en salle des maîtres de l'univers, j'avais retrouvé ça où on essayait de te transposer un univers en intégrant de nouveaux personnages et ça ne fonctionnait pas. Et là, vraiment, ça ne fonctionne pas. Ça... Franchement, j'ai largement préféré, j'en avais parlé, hein, le Mortal Kombat Legends Scorpion Revenge, qui était un dessin animé. Moi, j'ai vraiment trouvé ça plus intéressant. Ça m'a donné qu'une envie, c'est de revoir le film de 95 avec Christophe Lambert, évidemment, qui est loin d'être parfait, qui était mal fichu, mais qui avait compris des trucs du jeu vidéo, je pense. Là, on sent que le film, c'est une sorte d'énorme teaser pour la suite. Hein. J'imagine qu'il y a d'autres, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et d'ailleurs, je vous invite à inviter à écouter moi j'aime beaucoup le podcast Capture le Mag de Stéphane, avec Stéphane Mosaïkis, entre autres, et Yannick Dahan. Ils en ont très bien parlé de Mortal Kombat. Je crois que tout est dit. Et bon, voilà, c'est... voilà, dur.
Corentin.
Moi, je mate un animé en ce moment qui est vraiment, vraiment chouette. C'est vraiment mon animé de la saison. Enfin, je regarde pas non plus tous les animés, mais celui-là m'a vraiment marqué. Ça s'appelle Hot Taxi. Donc, c'est un animé de cette saison-là et c'est sur Crunchyroll. Ça raconte l'histoire, en fait, d'un chauffeur de taxi qui s'appelle Odokawa et qui est vraiment le chauffeur de taxi ultra taciturne, qui parle pas, il est là, tu sens qu'il en a vu d'autres. Et en fait, on va suivre un petit peu la vie des clients, en fait, qu'il va trimballer dans son taxi. Il y a un petit côté la cantine de minuit et un petit côté aussi Agretsuko dans la façon dont cet animé dépeint en fait un Tokyo moderne avec tous les problèmes qu'il peut y avoir liés à la solitude, aux réseaux sociaux, à la recherche de gloire des personnages, à la recherche amoureuse, la détresse amoureuse aussi des personnages dans un Tokyo où tout le monde finalement est mélangé mais complètement isolé. Au fur et à mesure, en fait, on va donc différents personnages avec différents problèmes et différentes histoires vont se développer et vont finalement s'entremêler puisque en fait on va voir que certains doivent de l'argent à d'autres, certains sont dans des plans vraiment chelous avec d'autres, il y a des relations amoureuses un peu bizarres qui se mettent en place, tu comprends pas avant de comprendre que peut-être que c'est intéressé pour d'autres raisons, et au milieu de tout ça, donc tu as ce chauffeur de taxi sur lequel tu as l'impression que tout tombe, tout glisse, et qui va devoir essayer de se dépêtrer de tout ça face à des policiers corrompus, des personnages qui en veulent à sa vie alors qu'il a pas fait grand chose finalement et qui essaye juste, lui il essaie juste de vivre sa vie de taxi et de pas faire autre chose. Ça se passe dans un Tokyo urbain étouffant où tout le monde vit tout le temps, même la nuit, où la pression est sur les épaules de tout le monde sans exception. J'ai pas précisé, tous les personnages sont des animaux. Encore une fois, très très Agretsuko dans l'idée. Notre ami Odokawa est une espèce d'éléphant de mer massif dans son taxi et il parle pas, il a pas d'expression sur son visage, mais il est ultra attachant. C'est un jeune studio qui a fait ça apparemment. Alors c'est ce qu'on m'a dit récemment et c'est original. Enfin c'est pas basé sur un manga ou quoi. C'est trop bien. L'ambiance musicale est super chouette, un petit peu pop. C'est du rap japonais quoi, donc c'est un peu gentil. Mais malgré tout très très chaleureux, il y a une ambiance dans cet animé, je recommande Hot Taxi, mais même si vous aimez pas les animés en fait, parce que ça va vraiment vous donner une vision très claire et très vraie de ce qu'est la pop culture et à quoi ressemble finalement le Japon aujourd'hui. Alors évidemment dans un filtre un petit peu dramatisé puisqu'on va parler de Yakuza et compagnie aussi, mais ça parle de réseaux sociaux, ça parle de gacha, de jeux free to play qui vous bouffent le cerveau, ça vous parle d'idol, donc ces jeunes artistes qu'on sexualise presque pour tirer de l'argent des fans. Enfin vraiment, c'est super. Regardez Hot Taxi, c'est sur Crunchyroll. Je crois qu'il y a des offres gratuites en plus. C'est vraiment vraiment chouette. Ça dure 20 minutes chaque épisode. Là, on en est au 7e. Je ne peux que recommander Hot Taxi. C'est vraiment trop trop bien.
Cool. Moi, pour ma part, j'ai regardé. C'est sur Netflix. C'est une mini-série de 8 épisodes qui s'appelle Le Serpent.
Ah oui, sur Netflix, oui.
Et en fait, alors c'est assez drôle. En fait, c'est basé sur une histoire vraie. C'est très vrai. Enfin, en fait, c'est basé sur un tueur en série français qui a sévi en Thaïlande, notamment au milieu des années 70. Le truc est assez fascinant parce que c'est une, parce qu'il y a un aspect documentaire en fait, parce que c'est très proche de la réalité. Évidemment, les dialogues sont inventés, mais tous les faits sont établis et c'est assez fascinant. Moi, j'ai eu un rapport un peu compliqué avec la série parce que ma moitié était tombée dedans et donc on regardait et j'avoue que je trouvais ça dur. Parce que le personnage est antipathique, le personnage principal est antipathique. Donc,
ça retrace son périple, c'est ça ?
Ça traque comment il a été découvert, sa façon d'opérer, etc. Enfin, c'est très très bizarre. J'ai trouvé les premiers épisodes très durs à regarder parce que c'est violent. Enfin, en fait, il empoisonne ses victimes. C'est vraiment un escroc mêlé d'un tueur en série. Et en fait, à partir du troisième, quatrième, moi j'ai été pris aussi dans l'histoire et c'est vraiment bien foutu. Et quand tu te rends compte que après tu vas sur la page Wikipédia, tu remarques et tu dis ah ouais, ça s'est vraiment passé comme ça.
Ah oui, c'est
pas assez dingo en fait. Il y a un côté fiction que tu peux pas t'enlever de la tête quand tu regardes le truc, tellement c'est énorme à certains moments. Jusqu'à la fin, c'est dingo. Et voilà. Après, je juge pas. Je trouve que les acteurs sont vraiment très très bons. Et il y a un côté assez fascinant aussi de mélange de langues, parce que ça parle en français, anglais, hollandais aussi. Enfin voilà. Il y a un mélange de langues comme ça, les sous-titres qui apparaissent, qui disparaissent, parce que il y a des Français qui jouent beaucoup. Enfin voilà. Et je trouve le résultat est vraiment super intéressant et c'est sur Netflix, c'est 8 épisodes et il n'y aura pas de saison 2 parce que c'est une histoire vraie et que, que ça se termine.
Il revient.
Il revient, oh my god. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci à tous les deux et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao.
Et qui font pas mal aux yeux. Ciao.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.